bonsoir à tous. Ça commence bien, hein. C'est une espèce de suavité d'un propos. Okay. Donc vous entendez l'espèce de gémissement que vous venez d'entendre dans vos postes de radio, c'est Monsieur Figueras qui est très très loin du micro. Pourtant, depuis le temps qu'il vient dans cette émission, il devrait savoir que pour causer dans le poste, il faut avoir le nez
pour
sur le micro.
J'écoute.
C'est bien. André vient nous parler d'un numéro du Crapouillot qui vient de paraître. À mon avis, si vous voulez l'acheter rapidement, ne perdez pas de temps. Parce que ça s'appelle Le Petit Dreyfus Illustré. Et il est consacré à l'affaire Dreyfus dont nous célébrons, ou dont nous constatons en tout cas le centenaire, puisqu'elle a commencé en avril 1814 par...
94.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit 14.
1814.
Oui, non, mais 1814, c'était Napoléon.
Je suis gâteux, je suis délabré mentalement. En avril 1814, par un message du colonel de Valcarlos, attaché militaire espagnol à Paris, qui a fait prévenir le colonel Sanders, et non pas le colonel Sanders, chef du service de renseignement, qu'il y avait un loup dans la bergerie et que quelqu'un trahissait l'état-major. Et ça a duré, bah ça a duré 100 ans, parce que ça dure encore aujourd'hui. Et Figueras, André Figueras, que l'on connaît d'une part comme mémorialiste, d'autre part comme journaliste politique, comme journaliste d'investigation, comme journaliste catholique, comme écrivain catholique, enfin, il a 36 000 casquettes. Il est
pas de casserole.
Mais pas de casserole, non. Est également, on peut dire, je crois, probablement un des meilleurs connaisseurs actuels, vivants, et j'espère que ça durera encore longtemps, non pas que je sois le seul, mais que je sois vivant, de l'affaire Dreyfus. Et il a même consacré deux livres. Un qui était vraiment de pure provocation, ne serait-ce que par son titre, puisque c'était intitulé « Ce canaille de D », point de suspension. « Ce canaille de D », c'était pas une faute de français, c'était tout simplement une référence à
la correspondance entre l'attaché militaire italien et allemand.
Voilà.
De l'époque, bien sûr.
Et puis ensuite, il a fait un autre livre dont le titre m'échappe pour l'instant.
L'affaire Dreyfus, revue et corrigée. Qui a provoqué la fureur de l'abbé de Nantes.
Mais je crois qu'on essaiera d'y survivre. À mon avis, c'est un livre extrêmement important parce que c'est un livre qui présente, j'allais dire pour la première fois, une hypothèse inédite, ce qui était un très très joli pléonasme, mais qui présente une hypothèse fascinante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, et je vous demanderai, André, de nous parler de ça en même temps que vous nous parlerez de ce numéro du Crapouillot, hors série numéro 3 de septembre 94, en vente dans toutes les bonnes librairies.
Oui, il doit être demain matin dans les kiosques à Paris et vendredi en province.
Sous le titre Le Petit Dreyfus Illustré, qui est un compendium, est-ce qu'on peut dire ça?
Pourquoi pas?
De l'affaire Dreyfus, comme le fait en général le Crapouillot, avec beaucoup d'illustrations, avec des reproductions de textes manuscrits en facsimilé. Enfin, c'est tout à fait intéressant, on va en parler. Et puis, nous recevrons également Monsieur Étienne Duchalard, qui vient ce soir représenter Renaissance catholique. Alors, je signale que ceux qui ont trouvé qu'on en faisait trop la semaine dernière sur ces questions de la vie, ils peuvent écouter une autre radio, parce qu'on va quand même en reparler aujourd'hui. On va d'ailleurs en reparler en donnant tout de suite... Pourquoi attendre la parole à quelqu'un qui est un auditeur dont je ne citerai pas le nom puisqu'il souhaite garder l'anonymat, mais puisqu'il a indiqué son nom et son adresse sur sa lettre, j'en tiens compte. Alors je vous la lis. Ça sera un peu long, mais je crois que c'est intéressant, parce que c'est un point de vue intéressant, bien que je ne partage pas. Monsieur auditeur attentif de vos émissions du mercredi, je dois devoir marquer mon total désaccord avec ce qui a été dit de la démographie du tiers-monde le 14 septembre. Condamner l'avortement ne doit pas conduire à nier le surpeuplement d'une vaste partie du tiers-monde et les menaces qui en résultent. C'est pourtant ce qu'ont fait vos intervenants à partir de positions passionnelles et, me semble-t-il, sans se fonder sur une connaissance personnelle de ces populations. En qualité de démographe, j'ai longtemps travaillé en Afrique tropicale. Je considère que dans une grande partie de ce continent, il y a effectivement surpopulation, sans pour cela que des densités élevées soient partout atteintes. En effet, cette situation peut se réaliser du seul fait de la surexploitation de milieux physiques très vulnérables. Dans le vaste espace sahélien, dénudé du fait de la pullulation des troupeaux bovins, le vent enlève le sol cultivable et va le déposer dans l'océan Atlantique, ne laissant que des surfaces stériles. Au Cameroun, sur le plateau Bamileke, au sol volcanique, les densités de population dépassent 400 habitants au kilomètre carré. En dépit d'une très forte émigration vers les villes, la nuit, à partir de 2 heures du matin, on voit sur les grands chemins marcher des théories de femmes. Elles vont cultiver les vallées lointaines, car les terres du plateau surexploitées ne produisent plus suffisamment. À titre d'exemple, mon correspondant dans cette région, petit fonctionnaire, a 24 enfants vivant avec 4 femmes. Les constructions nécessaires à tout le monde, plus les sépultures, ont occupé la presque totalité de son terrain, qui, du temps de son père, produisait la nourriture d'une famille de 5-6 personnes. Mon employé, un homme moyen, petit planteur, a eu 18 enfants, dont 14 vivant avec 2 femmes. Si du fait des missions qu'il a faites avec moi, il n'avait pas été séparé de ses épouses 3 mois chaque année, lui aussi serait arrivé à 20 enfants vivants. Bien que travailleur, il vit dans la gêne, incapable de faire vivre sa famille sur un terrain dont le sol a été ruiné par la surexploitation. Je vous adresse en annexe copie d'une lettre que je lui ai envoyée le 30 mai 1994 à une demande d'avance. En milieu musulman, dans toute l'Afrique centrale, les maladies vénériennes amenant la stérilité des femmes avaient conduit à une dépopulation très poussée. Maintenant qu'elles sont traitées et en grande partie guéries, l'accroissement reprend très rapidement. À titre d'exemple, le garagiste qui répare ma voiture dans une petite ville du Nord Cameroun a 22 enfants avec 4 femmes. On pourrait croire que les riches limitent volontairement la natalité. Erreur. Les enquêtes démographiques en milieu musulman montrent que les gros commerçants ont presque tous une 20aine d'enfants. Si l'un d'eux n'en avait que quelques-uns, le voisinage insinuerait qu'il est impuissant. De même, les femmes tiennent à honneur d'avoir beaucoup d'enfants. Si l'une d'elles n'en a que quelques-uns, on laisse entendre qu'elle est sorcière et qu'elle mange l'âme des enfants qu'elle aurait dû mettre au monde. D'autre part, comme les Africains ne peuvent compter sur aucune protection sociale efficace vu la mauvaise gestion de leurs gouvernants, un homme ne peut espérer être soutenu que par ses enfants. Ces facteurs conjugués laissent peu d'espoir de voir baisser une natalité démentielle qui entraîne le doublement de la population en 25 ans. À mon avis, tous les efforts déployés en ce sens en fonction de solutions élaborées en Europe conduiront à des échecs. La surpopulation va s'aggraver inexorablement jusqu'à ce que des solutions tout autres s'imposent d'elles-mêmes, la famine, les épidémies et la guerre, comme on l'a vu récemment au Rwanda, où des densités supérieures à 500 habitants au kilomètre carré avaient rendu la vie impossible à tous. L'une des pires conséquences de l'immigration est la reconstitution dans nos grandes villes de situations nées de l'explosion démographique du tiers-monde. D'ores et déjà, des calculs approchés, car on nous cache la réalité, montrent que les naissances d'enfants de race blanche dans la région parisienne représentent moins de la moitié du total. Ainsi, une population exotique se substitue rapidement aux Français de souche, dont la faible natalité, ne permet pas le remplacement des générations. L'Île-de-France devient une mégapole du tiers-monde, rivalisant avec Mexico ou Rio de Janeiro. La situation est très semblable à Lyon et à Marseille. Étant donné le grand nombre des allogènes déjà installés et la puissance du courant migratoire qui ne cesse de s'accroître dans l'indifférence générale, la surpopulation ne peut aller que s'accentuant, créant dans notre pays un nouveau Brésil. C'est en fonction de cette perspective angoissante qu'il nous faut envisager l'avenir, et non par référence à la France que nous avons connue et qui n'est plus qu'un souvenir. Voilà, je veux dire que si je recevais une lettre comme ça tous les jours, je serais un homme heureux, parce que c'est une lettre à la fois sérieuse, intelligente, on sent que le scripteur est quelqu'un de cultivé, d'expérimenté. Et c'est une lettre qui pose réellement
le fond du problème.
Des questions au fond du problème.
Il y a deux problèmes, deux questions qu'il aborde. Il aborde le problème de la démographie en Afrique et puis le problème de l'immigration dans nos pays, ce qui n'a absolument rien à voir.
Parce que les vases communicants...
La question de la démographie en Afrique, elle est relative au problème du développement. Si l'Afrique était développée, elle serait sous-peuplée. Donc la question, elle est plus le développement. On pourrait dire que la France au XVIe siècle, plutôt à la fin du Moyen-Âge, était un pays où régnait la surpopulation. Et je dirais que c'est cette surpopulation qui a entraîné ensuite le développement de l'industrie et le passage d'une transition démographique avec un ralentissement de la croissance démographique. Donc c'est le facteur développement qui est très important. Et je dirais que la surpopulation est une bonne chose d'un certain point de vue parce qu'elle poussera ces pays-là à un développement industriel.
Alors c'est Étienne Duchalard qui parlait. Puisqu'il a entamé le débat, continuant, vous êtes d'accord
Pas du tout.
André, non, pas d'accord avec ce qu'il dit, mais d'accord avec le fait qu'on parle de ça.
Ah oui, oui,
on
voulez.
Parlera de votre... crapouillot ensuite, j'avais prévu le programme à l'envers, mais puisqu'on a commencé,
comme vous voudrez,
on peut continuer. En France, comme vous évoquiez le problème de, enfin la question de la France, historiquement, la France a connu trois fois dans son histoire depuis le Moyen-Âge un développement démographique dépassant ses capacités ses capacités d'existence. C'est-à-dire que trois fois, on s'est trouvé dans une situation où il y avait plus d'habitants que la France ne pouvait en nourrir.
Ouais.
Trois fois, on a surmonté cette difficulté par un phénomène qu'on pourrait dire un phénomène de choc-rebond, c'est-à-dire que la surpopulation s'est cognée avec la sous-alimentation. La sous-alimentation a entraîné une dépopulation qui a permis de revenir à un niveau normal d'alimentation et qui a produit, d'autre part, un progrès humain, un progrès technique, qui a débouché sur une possibilité d'alimenter plus de gens. Il faut savoir que au XVIIIe siècle, il fallait 2 hectares de terre pour nourrir une personne, et que aujourd'hui, avec 2 hectares de terre, on nourrit 20 personnes. Autrement dit, la capacité, le progrès technique sur le plan simplement de la production agricole, a multiplié par 20 les capacités de production de la terre en 2 siècles.
Mais je dirais que c'est même la surpopulation qui oblige les pays et les peuples à se surpasser justement pour survivre. Et je dirais que c'est pas la sous-population. Il y aurait une sous-population, il y aurait pas de défi à relever. La surpopulation est un défi à relever et tous les pays qui ont connu une industrialisation très forte, un développement économique très fort, ça a toujours été sur une population nombreuse. Les États-Unis ont accueilli des millions d'émigrés brutalement. Le développement de l'Angleterre au XIXe siècle est fait sur un fort développement démographique. Et notre retard industriel par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre, il est surtout dû, notre retard industriel, la veille de 14, disons, est surtout dû au freinage démographique depuis la Révolution française, oui. Alors que l'Allemagne et l'Angleterre étaient en plein boom démographique, on pourrait dire en surpopulation démographique, parce que il y avait à la fois beaucoup d'enfants et une forte émigration des campagnes vers les villes.
Oui, si vous voulez, je crois que tout le problème vient du fait que tout le malentendu dans lequel on est impliqué depuis 2 semaines, puisqu'on évoque ce sujet depuis 2 semaines, et que je vois bien par la nature des réponses et des réactions des auditeurs qu'il y a une colossale majorité d'auditeurs, c'est de l'ordre de 99%. Qui sont, pour dire les choses clairement, partisans d'une limitation drastique des naissances par tout moyen possible, y compris probablement le génocide, dans les pays du tiers-monde. C'est une chose à laquelle je peux absolument pas adhérer pour 1000 raisons, à commencer par la raison que je suis catholique et que pour moi, tous les hommes se valent devant Dieu. Mais... je crois qu'il y a un malentendu extraordinaire, et puis surtout, il y a une impossibilité de dire la vérité. C'est-à-dire que ce que vous venez d'évoquer, Étienne Duchalard, le fait que la nécessité fait loi et crée en quelque sorte le progrès en Occident,
en Asie, par exemple,
septentrional. Enfin là, je parle de notre sphère, en Occident septentrional. Cette réalité n'existe pas en Afrique. On en a la preuve. Vous évoquiez tout à l'heure la question des États-Unis. C'est vrai que le progrès naît, l'expansion de la population sur le territoire des États-Unis naît d'une pression démographique très forte à l'Est, qui engage les gens à partir vers l'Ouest. Mais c'est un phénomène qu'on ne connaît jamais dans les populations africaines. Il y a, dans les populations africaines, une incapacité évidente, qui est liée, je ne sais pas à quoi, à transformer en quelque sorte un handicap en moteur de progrès. Et on voit bien que le seul remède, que quand il y a un problème de démographie, de surpression démographique, l'Occident trouve des solutions qui sont des solutions techniques, des solutions liées au progrès technique. Alors que les seules solutions qui existent en Afrique à la surpression démographique, c'est celle qu'évoquait notre auditeur, c'est-à-dire ce sont des solutions naturelles, de sélection naturelle, autrement dit, des sélections c'est des solutions qui sont liées à la famine, qui sont liées aux guerres tribales, qui sont liées
au sida.
Au sida. Et donc là, il y a vraiment une question que personne n'ose jamais évoquer. C'est la capacité de certaines populations à surmonter les difficultés, à les vaincre, à les surpasser, comme on dit au judo. Est-ce que certaines populations sont plus aptes à tirer profit des difficultés que d'autres? Bon, alors, quand on a posé cette question-là, il en reste que la question qui reste posée, c'est réellement la question de l'égalité des hommes devant le Créateur. Est-ce qu'on a le droit moral de dire que sous prétexte qu'on va être un jour trop nombreux, ce qui est un mensonge, ce qui est un mensonge absolu, c'est un mensonge, c'est une manipulation, c'est un trafic d'informations qui est faite par la gauche, qui est menée par la gauche avorteuse, c'est-à-dire la pire des gauches, des gens qui veulent détruire les populations, non pas les populations nègres dont ils se contrefoutent, mais les populations blanches occidentales, pour régner sur elles, pour les tenir par la force et par une espèce de chantage. On leur fait croire qu'il y a un danger de surpopulation ou de surpression démographique, ce qui est un mensonge honteux. Et alors, à partir de là, quand ces gens-là sont convaincus de cette réalité de la surpression démographique, qui est devenue maintenant un truisme, c'est-à-dire que quand on allume la télé, je regardais hier soir une émission sur, je sais plus quelle chaîne, où il y avait des jeunes, des tout jeunes gens qui s'exprimaient, et il y avait une gamine qui pouvait avoir 14 ans, qui expliquait, mais comme on lui aurait dit, comme elle aurait dit que l'eau mouille. C'était à peu près de ce niveau de certitude qu'il y avait une surpression démographique et que donc il fallait évidemment légaliser l'avortement et la contraception. Tout ça était naturellement. Or ça, c'est fondé sur un mensonge total. Eh bien, la question centrale, la question que nous devons nous poser quand même, qui est une question morale, qui est une question éthique, c'est est-ce qu'il est supportable une seule seconde que nous disions, nous, il est normal d'infliger au tiers-monde, autrement dit aux nègres, soyons clairs, un contrôle des naissances, soit par avortement, soit par contraception, pour éviter que leur développement démographique soit plus rapide que le nôtre. Est-ce que c'est éthiquement défendable ?
Je dirais que c'est évidemment absolument pas éthiquement défendable, mais c'est surtout impraticable. Il est certain que le retard culturel qu'on rencontre en Afrique et qui fait ce freinage au développement, qui fait qu'ils n'arrivent pas à relever les défis auxquels ils sont affrontés et qui réussiront peut-être dans le futur, mais pas actuellement, c'est pas la pilule, le RU ou l'avortement qui freinera la démographie dans ces pays-là. Ils ne pourront pas, les femmes ne pourront pas prendre régulièrement la pilule tous les jours. Elles ne pourront pas utiliser le RU. Et il faut pas rêver, c'est pas la contraception ou l'avortement qui freineront la démographie dans ces pays-là. Leur niveau culturel les empêche complètement d'utiliser cette forme de contraception qu'est la pilule. Donc il n'y a que le développement qui permettra ce freinage démographique et pas du tout les moyens contraceptifs ou avortifs auxquels ils n'auront pas accès. Donc sauf le freinage démographique démographique, comme disait Monsieur Figueras. Effectivement, par la guerre, la famine, j'y crois peu par la famine parce que maintenant on alimente.
Ne me faites pas dire que je suis partisan de la famine.
Mais, non, pas du tout, pas du tout. Mais pour ralentir la démographie dans ces pays-là, ceux qui veulent freiner la démographie dans ces pays du tiers monde, il y a que ça. C'est pas la contraception ou l'avortement qui freinera la démographie.
Non, je me rappelle un mot que m'a dit Jean-Marie Le Pen il y a bien longtemps. Je vais un peu l'atténuer parce que nous sommes en public. Mais c'était du temps encore de l'Algérie française et où déjà se posait le problème de la montée des indigènes par rapport aux Européens. Et il me disait, il faut apprendre aux femmes algériennes à se laver. Vous voyez quoi? Voilà. Bon. Eh bien, oui, il y a probablement aussi cet aspect-là, cet aspect en quelque sorte intellectuel, car l'Église admet bien tout de même qu'on ne fasse pas, elle n'est pas pour le lapinisme non plus. Entre le fait de ne pas tuer un enfant conçu, ça nous sommes évidemment tout à fait d'accord, et le fait de ne pas en concevoir indéfiniment, et en particulier avec une ribambelle de femmes chacun, il y a une limite. Et si l'Église admet certaines façons de ne pas exagérer, de ne pas dépasser les possibilités. Bon, évidemment, est-ce qu'on peut les faire comprendre, surtout maintenant qu'ils sont devenus musulmans à force, que l'influence chrétienne a pratiquement disparu d'Afrique, je ne sais pas si nous avons de grands moyens de pression morale, intellectuelle. Je suis pas sûr, évidemment.
Oui, c'est pour ça que je pense que, à part le développement économique, il n'y a pas grand-chose d'autre.
Oui, seulement votre loi, pour l'instant, ne se vérifie pas ou pas encore, parce que l'Algérie, où il y a une énorme surpression démographique, ils sont en pleine capilotade sur le plan économique et industriel, justement.
Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font remarquer une chose, c'est que notre auditeur, celui dont j'ai lu la lettre tout à l'heure, soulignait indirectement par sa lettre l'importance considérable dans ce débat de la polygamie. Et c'est vrai qu'un homme qui a 4 femmes peut avoir 30 enfants. Un homme qui n'a qu'une femme, bon, il peut avoir, nous en connaissons des exemples dans notre famille, et je m'en félicite d'ailleurs, 15, 16, 17 enfants. C'est quand même très exceptionnel.
Oui, très exceptionnel.
Bon. Mais en Afrique, c'est tout à fait courant. Et alors, là, il y a vraiment un problème de civilisation, il y a un problème de société, il y a un problème de religion, il y a un problème...
C'est un problème culturel de civilisation.
D'ailleurs, dans les rares cas où il y a encore des missionnaires qui ont un peu d'efficacité, c'est-à-dire au Cameroun, je crois, la première chose qu'ils font quand ils baptisent des Noirs, c'est de leur dire, ben maintenant, tu n'as plus qu'une femme, les 3 autres, il faut t'en débarrasser. C'est d'ailleurs un obstacle à la conversion,
oui,
mais ça n'est pas un obstacle absolu, il y en a qui acceptent. Bon, donc, évidemment, la christianisation serait un bon remède.
C'est exactement ce que je pense.
Exigences morales du christianisme sont beaucoup plus grandes que pour l'islam.
Hein. Évidemment.
Tout le problème, il est là.
Alors, je voudrais revenir à cet auditeur, parce que je lisais sa lettre tout à l'heure, et il faisait, vous l'avez peut-être entendu, allusion à une correspondance qu'il avait adressée à un de ses employés camerounais. Je voudrais vous lire cette lettre, parce qu'elle me paraît, elle peut surprendre, elle peut choquer, choquer, mais elle me paraît exemplaire de l'ordre des relations qui peuvent exister encore aujourd'hui, puisque c'est une lettre qui date de mai 94, c'est pas une lettre qui date d'avant-guerre. Des relations qui peuvent exister entre un occidental vivant en Afrique et les Africains vivant en Afrique, car c'est une réalité dont nos contemporains, dont les gens qui vivent en France et pas en Afrique, en dehors du contact avec les Africains en Afrique, c'est une réalité dont ils sont totalement ignorants, parce qu'on a tendance, comme le dit Lugan, à croire que les Africains sont des blancs peints en noir. Et je crois que cette lettre est tout à fait exemplaire des relations qui peuvent exister entre un patron et son employé, dans cet ordre de choses. Alors il lui écrit « Cher M, j'ai répondu tout de suite en recevant ta lettre du 16 que je voulais bien t'envoyer 100 000 francs pour le gardiennage de 94, mais que les mandats ne passent plus et que le seul moyen est que tu trouves quelqu'un de sûr qui ait un compte en banque pour que je lui fasse un virement, et encore la banque fera-t-elle un prélèvement dessus pour les dépenses. Cela dit, il faut quand même réfléchir à ce qui t'arrive là. Tu as gagné avec moi dans cette mission presque 600 000 francs. Il s'agit naturellement de francs CFA, il faut le préciser. Autrement dit, 600 000 francs, ça fait 6 000 francs français. Donc tu as gagné avec moi dans cette mission presque 600 000 francs. Après avoir trouvé 250 000 francs en décembre et un mois après avoir été payé, tu n'as déjà plus rien. La maladie et la mort d'un enfant nouveau-né entraînant une dépense de 58 000 francs te mettent littéralement en faillite et tu m'envoies un appel au secours. Alors là, je ferai une petite parenthèse. Pour avoir été en Afrique un petit peu et pour avoir été témoin de ce genre de problème, il faut savoir que effectivement, la maladie et la mort d'un enfant, quand bien même on en a 30 ou 40, est pour un Africain, constitue pour un Africain l'obligation sociale de dépenser énormément d'argent pour les obsèques, c'est-à-dire de tuer des chevreaux, d'inviter la famille et tout. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. On voit 58 000 francs, c'est-à-dire 580 francs français, et pour un Africain. Au Cameroun, à l'heure actuelle, je pense que le minimum vital doit être de l'ordre de peut-être 350 francs, 300 francs, peut-être 400 francs au maximum. C'est-à-dire c'est un mois et demi de salaire pour un employé. C'est quelque chose d'énorme. Donc, il lui dit, la maladie et la mort d'un enfant nouveau-né entraînant une dépense de 58 000 francs te mettent littéralement en faillite et tu m'envoies un appel au secours. Autrement dit, tu n'as aucune réserve et je vois bien que depuis que je te connais, tu vis au jour le jour, n'arrivant pas à faire face à tes obligations. Cela, bien que tu sois travailleur, je me plais à le reconnaître, cette situation impossible vient de ce que, comme tous les X, tu n'as pas cherché à limiter les naissances dans ta famille. Sauf erreur de ma part, tu as 18 enfants, dont 8 ou 10 sont encore à ta charge. Il n'est pas possible que le travail d'un homme puisse faire vivre 12 personnes. Si avec tes deux femmes, tu avais eu seulement 5 ou 6 enfants, dont 3 ou 4 seulement resteraient à ta charge, tu vivrais mieux et tu pourrais les élever convenablement. Réfléchis bien à ceci. Tu as épuisé la terre de ta concession en voulant lui faire produire plus de nourriture qu'elle ne pouvait et tu ne peux pas la remettre en état puisqu'il faudrait la laisser en repos pendant plusieurs années de suite. Tu vis difficilement avec 12 personnes sur cette concession où ton père vivait bien avec 6 personnes. Si tes enfants ont le même nombre d'enfants que toi, dans 20 ans, cette concession dont la terre est déjà gâtée devrait faire vivre 30 personnes et dans 40 ans, 60. C'est bien sûr impossible, ils mourront de faim et de misère. Tu me diras qu'ils iront chercher du terrain ailleurs, mais où ? Puisque c'est partout la même surpopulation, il faudra qu'ils aillent par la force prendre les terres de quelqu'un. Il y a plus de 20 ans que votre gouvernement vous conseille de limiter les naissances et qu'on en parle à la radio. Les moyens sont bien connus, des médecins et des pharmaciens. C'est essentiellement la pose de stérilet. Mais comme les autres, tu n'as pas écouté et tu n'as rien fait. Si tu étais raisonnable, tu ferais poser des stérilets à tes femmes de façon qu'elles n'aient plus d'autres enfants et se contentent d'élever ceux qu'elles ont déjà. Cela d'autant plus qu'elles ne sont plus toutes jeunes et que les femmes de plus de 35 ans ont plus de risques d'autres que de mettre au monde des enfants mal constitués. C'est, je crois, ce qui t'est arrivé cette fois. Je t'écris cela, mais je sais que tu n'en feras rien et que tes femmes continueront d'accoucher tous les 18 mois jusqu'à ce qu'elles soient vieilles. Il faut supporter les conséquences de ce qu'on fait. Si on a choisi la misère avec 20 enfants, il faut la supporter sans se plaindre. Je te demande de réfléchir fortement à tout cela, car jusqu'ici, tu as pu t'appuyer sur moi pour trouver des secours, mais mon travail ne va plus durer longtemps. Il va bientôt falloir faire face, seul, à tes problèmes. Et il ajoute, tu as remarqué comme moi le nombre d'enfants qui traînent dans les rues de la ville, sans travail et sans ressources, parce que leurs parents sont incapables de leur payer l'école et de les nourrir. Ce sont des choses que l'on ne voyait pas il y a 15 ou 20 ans. C'est la surpopulation qui est la cause de cette misère qui s'accroît chaque année. Alors voilà le problème posé par quelqu'un qui, on le voit, son style est quelqu'un de sensé. C'est probablement pas un jeune rocker. Et qui connaît l'Afrique et qui connaît les Africains, visiblement il travaille avec les Africains depuis des années. Et alors on est à la fois impressionné par l'autorité dont fait preuve cette lettre et totalement, je dirais, accablé, mais au-delà de toute expression, par la matière, le domaine, le territoire sur lequel cette autorité s'exerce. C'est-à-dire que cet homme qui, visiblement, encore une fois, est quelqu'un d'exceptionnel et qui détient une autorité très forte sur un Africain sur une famille africaine, et bien tout ce qu'il trouve à dire, c'est il faut faire poser des stérilets à tes femmes.
Mais il sent qu'il ne le fera pas. Le problème, c'est que c'est cet Africain, on lui écrit, on lui conseille ça, pose de stérilet avortif, mais il ne le fera pas. Donc ce sont des conseils en vain, tout ça, de contraception, d'avortement, de pose de stérilet. C'est des conseils en vain. C'est il y a que par le développement économique, par
mais il y a quand même, judicieux. Si vous voulez, c'est ça. Mais c'est vrai, ça ne produira probablement aucun résultat pratique, mais il n'en reste pas moins. Qu'un homme évolué, un homme supérieur, supérieur sur le plan intellectuel, je précise pour la police de la pensée qu'il s'agit évidemment pas de supériorité raciale, il s'agit de supériorité intellectuelle. Eh bien, un homme intellectuellement supérieur accepte l'idée que pour régler le problème de la surpopulation, il faut faire avorter les nègres. C'est terrifiant sur le plan humain. Et je vous assure, là j'ai les lettres, les messages des auditeurs qui s'accumulent sur la table à côté de moi, c'est de l'ordre de 99%. Je vous supplie de réfléchir à cette question. C'est une question profondément grave, c'est une question d'éthique chrétienne fondamentale. Est-ce qu'on a le droit de penser ça?
Ouais, on peut absolument pas le penser, mais d'un point de vue pratique, c'est ça qui me paraît le plus ahurissant des partisans de ce genre de méthode pour diminuer la croissance démographique des pays du tiers-monde, c'est que c'est même pas réalisable et ça sent même pas une réussite. Regardons l'Inde, le fils d'Indira Gandhi, quand il organise des stérilisations massives d'indiennes, ça n'aboutit à rien du tout au point de vue du ralentissement de la croissance démographique indienne. En revanche, l'Inde, qui se développe beaucoup industriellement maintenant, a une croissance démographique en baisse. Mais c'est uniquement le développement, ça n'a pas été du tout les avortements, les stérilisations de force organisées par le fils d'Indira Gandhi qui ont freiné la démographie, ça a été le développement. Et l'Inde, actuellement, est en train d'accomplir sa transition démographique par un fort ralentissement de sa démographie. Et tous les pays d'Asie nous donnent cet exemple-là, que ce soit Formose, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée, et y compris la Chine. La Chine, ça sera plus son industrialisation qui freinera sa démographie, et pas du tout les politiques gouvernementales d'obligation d'avoir qu'un enfant.
Alors, Étienne Charles, si vous permettez, je vais donner lecture des messages des auditeurs, parce qu'il y a... Il faut leur donner la parole. Alors d'abord, je voudrais préciser que c'est Étienne Duchalard qui parle, c'est pas André Figueras. Je sais pas d'ailleurs pourquoi André Figueras aurait une position...
Non, je n'ai pas de compétences très particulières dans ce domaine qui m'effraie aussi, mais...
Étienne Duchalard représente Renaissance catholique, qui est un mouvement catholique, comme son nom l'indique, catholique de tradition, qui organise le 2 octobre une marche pour la vie, on va en parler tout de suite... Et ce sujet nous conduit forcément à parler de la vie, c'est-à-dire nous conduit à parler de la naissance, c'est-à-dire nous conduit à parler de l'avortement, mais de l'avortement dans le monde. C'est très bien d'être contre l'avortement en France, mais c'est pas suffisant. Il faut être logique avec soi-même. On peut pas être contre l'avortement en France et pour l'avortement chez les nègres. Je continuerai à le dire. Dussé-je me faire fermer la gueule à coups de botte, je continuerai à crier ça. C'est pas supportable autrement. Alors un auditeur dit, j'avais envoyé la semaine dernière une information que l'ignorance ponctuelle et relative de M. Figueras m'oblige à répéter. Vous n'êtes pas du tout en cause, André, je précise. Il s'agit de moi, en réalité. Là. En arrondissant à peine les chiffres, l'évolution de la natalité en Algérie a été la suivante. 1988, enfants par femme. 1990, 4 enfants par femme. Si ces chiffres sont vrais, ce sont des chiffres qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire que... Je pense pas que l'Algérie...
Non, mais je pense qu'ils sont 30 millions aujourd'hui.
Oui, mais je pense tout simplement qu'ils sont en train de...
Ils étaient 10 il y a 20 ans.
Freiner naturellement, bon. Je pense, parce que je crois pas que l'avortement a été recommandé particulièrement en Algérie. Alors, un auditeur dit, toutes les questions qui ne vous conviennent pas, vous les classez comme des provocations. Un auditeur dit, Beketch ne connaît pas son histoire.
Ah ben c'est notre fête ce soir.
Oui. Non mais ce sujet, c'est un sujet dramatiquement explosif.
Évidemment.
Il vient d'affirmer qu'en Europe, la solution de la surpopulation a toujours été réglée par le développement agricole. Non, vous m'avez mal écouté ou mal entendu ou je me suis mal exprimé. C'est pas ça du tout que j'ai dit. Tout cela est facile, il vous faut lire les discours du Troisième Reich, Hitler, Mussolini qui justifiaient leur entreprise de guerre, Hitler à l'Est, Mussolini en Afrique, pour trouver des terres qui puissent nourrir leur population. J'ai lu ça, effectivement. On a vu d'ailleurs à quoi ça aboutit. Ça aboutit effectivement à un contrôle des populations. C'est-à-dire que Hitler et Mussolini pensaient peut-être que l'un à l'Est, avec le Drangnar Houston, et l'autre en Éthiopie, allait trouver des terres nouvelles pour nourrir leur population croissante. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est des brasiers dans lesquels ils ont brûlé, détruit, ravagé, massacré des millions de jeunes gens et de jeunes femmes. Je pense pas, pour ma part, que ça soit apporté à l'actif du bilan de l'être humain. Un auditeur dit « J'ai vécu 4 ans au Gabon, j'ai vu des accidentés de la route laisser des jours entiers sur le trottoir jusqu'à ce que quelqu'un daigne les enterrer. Les Africains n'aiment pas les responsabilités. » Bon, ça s'appelle une généralisation. Mais moi, comme je suis néocolonialiste, je peux vous dire que si on me donne le pouvoir de régler les problèmes, ça n'arrivera pas, ça, parce qu'au Gabon, il y aura une administration coloniale qui réglera ces questions-là d'une façon simple. Et on supprimera...
Il faut bien dire que du temps béni des colonies, tous ces problèmes ne se posaient pas.
Voilà, ça ne se...
Ça marchait.
Bernard Lugan nous dit, un auditeur a affirmé que selon lui, l'Afrique n'était pas développable, donc il est illusoire d'espérer un frein démographique par le développement. Un auditeur, comme 99% Serge de Beccacciator, bah pour une fois que je suis dans la majorité. Je suis contre l'avortement, mais être contre la contraception, c'est médiéval. Mais je n'ai pas parlé une seconde de la contraception. On ne parle pas de la contraception, monsieur. On parle de l'avortement. On a parlé du RU486, qui n'est pas un objet de contraception, mais qui est un poison abortif et fétucicide. Et on a parlé du stérilet, qui est, comme l'a dit très bien Étienne Duchalard, non pas un moyen de contraception, mais un outil d'avortement. Avortement rapide, mais avortement quand même. Donc, il faut arrêter de dire tout et le contraire de tout, parce que c'est un peu fatigant à force. De plus, qui a voté la loi spoliant les propriétaires au bout de 48 heures de squat de leur appartement? Alors là, je vois pas très bien quel rapport, mais cet auditeur nous dit qu'il pose la question pour la 7e fois. Eh bien, monsieur, je n'en sais rien une fois pour toutes. Il y a un objet qui s'appelle le Minitel. Vous tapez sur le Minitel 3615 Joël, J-O-E-L, et vous suivez le chemin qui va vous être indiqué, et vous verrez qui a voté cette loi dont j'ignore absolument tout, qui spolie les propriétaires. Oui, c'est vrai que ce monsieur a posé la question 10 fois, mais Radio Courtoisie n'est pas un bureau de renseignement.
Eh oui, on reçoit aussi des lettres de gens qui demandent un tas de choses. Évidemment, ils s'adressent à nous parce qu'ils nous croient universels.
Ce qui est loin d'être le cas.
Nous ne sommes même pas universaux.
Une auditrice, un homme qui aime et respecte sa femme ne la met pas enceinte 15 fois. Il faut entendre l'avis des femmes et non entendre celui surtout des hommes. Alors, je sais pas, madame. Moi, je connais une dame, je connais des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Je connais plusieurs femmes qui ont 15, 16 et 17 enfants. Je connais leur mari. Et c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect. Et je pense que si cette femme vous entendait parler, elle serait extrêmement surprise d'apprendre que son mari n'a pas de respect pour elle. Oui. C'est tout. Enfin, ces femmes. Écoutez, je connais notamment une famille de, je crois qu'ils sont 16. Tous les garçons en âge sont ou sortis de Saint-Cyr, ou à Saint-Cyr, ou sur le point d'y entrer. Et toutes les filles en âge sont ou mariées, ou fiancées avec des Saint-Cyriens. Et ben, je trouve que c'est pas mal, vous voyez. Hein? C'est pas mal. C'est peut-être un peu exclusif, comme, mais c'est pas des gens de gauche, ça c'est bien clair. Alors, c'est l'expansion de l'islam qui est la cause de l'augmentation de la démographie en Afrique noire? Non, ne dites pas ça, c'est faux. Lorsque j'étais au Zaïre, les populations étaient évangélisées par les pères blancs et elles faisaient toujours autant d'enfants. Oui, c'est possible.
Oui, ben les pères blancs, ne mettons pas la conversation sur ces gens-là, parce que ça nous mènerait aussi très loin.
Entre les libéraux économiques et les natalistes, je n'ai pas envie d'écouter Radio Courtoisie. Et ce soir, c'est le cas. Eh bien, monsieur, il y a
écoutez pas.
54 radios.
N'écoutez pas, mesdames, disait Sacha Guitry.
Je suis désolé, mais le seul plaisir que me donne cette radio, c'est de me permettre de choisir mes sujets. Vous voyez, elle ne me verse pas d'argent. Je fais Radio Courtoisie depuis 6 ans à raison de 3 heures par semaine, et bénévolement. Donc, la moindre des choses que vous pourrez m'accorder, c'est le droit de choisir mes sujets. Si ce soir ça vous plaît pas, j'en suis vraiment désolé, mais c'est comme ça, voilà. La productivité a augmenté de 1 à 10, mais ceci gratuitement. Il faut savoir que la terre arable est passée de 80 cm à 40 cm. Oui, ça c'est vrai peut-être, ça reste à prouver, et c'est vrai pour une partie de l'abri. C'est pas vrai pour le monde entier.
Mais c'est vrai partout où on utilise des engrais chimiques, voilà. D'abord.
De toute façon, cette terre, elle n'a pas été transformée en chaleur et en lumière. Elle est bien quelque part. Vous savez, c'est tout à fait étonnant de voir comme il y a des chiffres comme ça qui... j'ai entendu, effectivement, c'est Jean-Claire Daven qui dit ça dans la terre assassinée, l'agriculture assassinée. Alors, ça fait choc. Donc, on a l'impression que la terre, en quelque sorte, la terre entière... a perdu 80 cm de diamètre.
Hein, puisque... Non, c'est pas ça, mais ce qui reste n'est plus de la même fécondité qu'un sol nourri d'engrais organiques.
Pourtant, la productivité n'a jamais été aussi bonne en agriculture. La preuve, on met en jachère un maximum de terre.
Ah oui, mais qu'est-ce qu'on obtient? Et de quoi nous nourrissons-nous? Ça nous mènerait très loin aussi.
On entend.
Il faut quand même qu'on reparle de Dreyfus. Hein.
On y vient. On entend des choses, on lit des choses tout à fait extraordinaires. Je ne sais pas si vraiment certains auditeurs se rendent bien compte de ce qu'ils écrivent, ou de ce qu'ils disent, mais on reçoit les messages écrits. Là, je vous lis un message d'auditeur. La démographie africaine n'est plus freinée par les maladies, n'est-ce pas la faute de nos médecins? Moi, je voudrais demander à ce monsieur, à cet auditeur, si simplement il a allumé une fois sa télévision et s'il a regardé mourir un bébé. Quelle que soit la couleur de ce bébé. On voit, c'est vrai qu'à la télé, on voit plus souvent mourir des bébés nègres que des fœtus blancs. Mais simplement, regardez le spectacle d'un bébé nègre mourant, et vous me direz si un bébé nègre qui est sauvé de la mort, c'est la faute de nos médecins. C'est tout, voilà. Vous me feriez plaisir en n'employant pas le mot éthique qui a été mis à la mode par des gens à qui le mot morale chrétienne évidemment, écorche la bouche. C'est le même problème que pour Sidéa et que Sidéa. Oui, si vous voulez, je veux bien dire morale. Moi, je vais pas me battre sur les mots pour ça. Éthique ou morale, c'est... Moi, j'ai toujours appris que c'était la même chose. En philo, bon. Éthique, c'est le mot philosophique pour morale, qui est le mot qu'on emploie en...
L'éthique anicomac.
Dans le deuxième cycle, voilà. La démographie en Afrique est définie par rapport aux ressources alimentaires ou par rapport à la superficie. La démographie en Afrique, elle est définie comme toutes les démographies, c'est-à-dire qu'on donne des chiffres de population, et qu'effectivement, en général, c'est si on dit il y a tant d'habitants par kilomètre carré, c'est par rapport à la superficie, évidemment. Votre exemple est mal choisi. Non, ça c'est, je crois qu'on s'est pas compris du tout. Alors, parce que cet auditeur dit, imaginez si 40 millions d'Irlandais vivant aux États-Unis rentraient au pays. Effectivement, ça ferait problème, certainement. Mais je crois pas que ce soit le danger. En cas de surpopulation, il y a aussi la capacité de s'entendre en termes de bon voisinage, en limitant l'espace vital. Exemple, la promiscuité des prisons, nous dit un auditeur. Mais c'est vrai, il a raison. Un auditeur dit la semaine dernière, Serge de Becquetch disait, le Christ a dit croissez, multipliez-vous, mais il n'a pas dit à l'infini. Non, c'est vrai, il l'a pas dit. Mais il n'a pas dit non plus, croissez et multipliez-vous jusqu'à 2 enfants par famille. Il a dit croissez, multipliez-vous.
Il faut qu'il s'établisse un ordre à la fois moral et naturel.
Comment osez-vous passer sous silence le fait que les politiques de limitation des naissances en Chine communiste, largement réussies, et ce, avant le développement industriel, d'ailleurs très récent, je le passe pas sous silence, je le dis, j'ajoute que ce qui a été dit la semaine dernière, c'est qu'effectivement, le résultat le plus clair de la limitation des naissances en Chine communiste, c'est que dans certaines régions, il y a 70% de garçons. Parce que quand c'est une fille à la naissance, on la tue, tout simplement, parce que la tradition fait que... on n'a pas envie d'avoir des filles, on préfère avoir des garçons, et donc on tue les filles à la naissance, on ne les déclare pas, et on déclare les garçons. Ce qui fait qu'il y a 70% de garçons, et que là, très très certainement, ça va avoir un effet très rapide sur la démographie, sauf découverte scientifique rapide, mais je doute que ça se produise.
Mais il n'y a pas besoin d'avortement, de contraception en Chine, justement, on tue les filles à la naissance, comme ça...
Oui, c'est une solution, évidemment.
Je suis outré, dit une auditrice, par tout ce que j'entends depuis une semaine. Aux Indes, en Asie, c'est parce qu'il y a eu un contrôle des naissances que l'économie a progressé. Il ne faut pas inverser le problème. Le stérile ne provoque pas un avortement comme la pilule RU486. C'est tout faux.
Complètement faux.
On ne peut pas dire autre chose. L'avortement n'a pas réduit la population en Inde. Pourquoi réduirait-il la population chez nous, dit une auditrice.
Oui, là, on tourne un peu en rond.
Oui, non, mais je veux donner la parole aux auditeurs. Il n'y a pas de raison, comme ils sont à 100% contre ce que nous disons, la moindre des choses quand même, enfin à 99% d'ailleurs, la moindre des choses, c'est de leur donner la parole. Les femmes africaines sont beaucoup plus réceptives que les femmes européennes à la contraception naturelle. Je suis étonné qu'on ne parle pas du rôle de l'Église, dont Mère Teresa est parvenue à faire comprendre aux femmes que la reproduction n'était pas un acte bestial. Donc c'est par le développement que l'on freinera la démographie galopante, dit une auditrice, bravo. Beckett est d'une mauvaise foi totale, 99% des auditeurs ne sont pas de son avis. Il est bon chrétien, qu'est-ce qu'un mauvais chrétien? Non, je ne suis pas un bon chrétien, je suis un mauvais chrétien comme tous, d'ailleurs, si vous saviez. Ne pas être conscient de la surpopulation de certains pays est le problème le plus important de notre époque et une chose grave. Il n'y a pas que l'avortement à proposer aux pays africains, ils ont leur propre méthode. Il y a une vingtaine d'années aux Indes, la natalité avait baissé du fait de l'installation de l'électricité dans les bidonvilles. A contrario, quand il y a eu cette panne d'électricité à New York, il y a eu un baby boom. C'est tout à fait vrai, voilà. Et un auditeur dit 99% des auditeurs font l'apologie du meurtre. Et enfin, une auditrice, j'ai gardé pour la fin parce que j'ai aussi besoin de me remonter le moral de temps en temps. Beckett a raison à 100%.
Voilà, voilà. Bravo.
Alors, bon, on arrête sur ce sujet, sauf que. Étienne Duchalard, vous nous rappelez, s'il vous plaît, avant que je donne la parole à André Figueras, ce qui va se passer le 2 octobre.
Voilà, alors dimanche 2 octobre, Renaissance catholique organise une grande marche pour la vie. Cette marche pour la vie commencera à 14h, place Henri Cueil, métro Sèvres-le-Courbe. Le départ sera précédé par une messe à 11h15 à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet dans le 15e, métro Sèvres-le-Courbe aussi. Et on peut y accéder en voiture, il y aura un parking gratuit et donc accéder aussi en métro. La messe sera suivie ensuite d'un déjeuner sur place où il y aura des stands des mouvements pour la vie et où on pourra se procurer des plateaux repas. Ensuite, donc, à 14h, départ de la marche. Ceux qui voudraient rejoindre la marche en cours de route pourront rejoindre rue des Pyramides, où nous passerons, métro Pyramide. Il y aura aussi un passage à 15h30 à l'église de la Sainte Trinité, métro Trinité. À 16h30, alors, ça sera l'allocution devant le Sacré-Cœur de Montmartre. Et à 17h, salut du Saint-Sacrement à l'intérieur de la basilique. Alors, nous souhaitons qu'un maximum de personnes puissent venir, qu'elles viennent surtout en famille avec les enfants. Il y aura des ballons qu'on donnera aux enfants. Et donc, il faut que dans cette période très tendue pour le combat pour la vie, où la conférence du Caire a montré que finalement, ça devient front contre front, où le Vatican, Rome, est monté en ligne pour la première fois très fortement au niveau diplomatique, qui fait que ceux qui lisent l'anglais, lisent les revues et les journaux anglais, voient Rome qui est traîné dans la boue dans toutes les revues et journaux britanniques et américains, anglo-saxonnes. Donc le pape lui organise d'ailleurs un pèlerinage des familles le 8 octobre à Rome. Je dirais que, pour moi, j'appellerais ça plutôt une manifestation, l'appel du pape à Rome, une semaine avant qu'il se rende à l'ONU, où il parlera de cette question de la vie. La situation est actuellement dramatique avec la loi sur la bioéthique en France et les futures lois sur la bioéthique aux États-Unis, où on pourra concevoir des embryons et faire des expériences sur eux, uniquement pour les concevoir, uniquement dans le but de faire des expériences, jusqu'au 14e jour. Donc on assiste à une dégradation complète et catastrophique au niveau de la morale sur la vie. Et donc nous souhaitons qu'à cette marche pour la vie du 2 octobre, un maximum de personnes puissent venir et viennent nombreux. Et plus on sera nombreux, plus on pourra peser aussi sur les politiques, parce qu'il y aura les élections présidentielles en 1995. Et donc, on voudrait que la défense de la vie soit un enjeu des présidentielles. Et pour cela, il faut que les gens soient dans la rue, parce qu'on respecte les groupes et les idées des gens uniquement s'ils sont dans la rue et nombreux.
Merci Étienne Duchard. Donc rendez-vous 2 octobre à 10h...
11h15 pour la messe, ou alors à 14h, place Henri Cueil, métro Sèvres-le-Courbe.
Merci. Alors deux derniers mots. Une auditrice me dit, vous êtes quelqu'un d'aisé avec deux enfants. Adopteriez-vous un enfant d'un autre pays? Moi, je voudrais bien savoir comment cette dame peut savoir que je suis aisé.
Et que vous avez deux enfants, elle vous n'avez pas dit
non.
Non,
deux enfants, je l'ai dit plusieurs fois sur ce micro. Mais que je suis aisé, elle devrait prévenir mon banquier.
Tout est relatif, oui.
Il serait content d'apprendre cette nouvelle. Et voilà, c'est plus l'autre message, non, c'est un message...
À ce moment-là, on pourrait réciter les pauvres gens de Victor Hugo. Oui. Hein, ils n'étaient pas aisés, ils ont quand même adopté les deux petits.
Voilà.
J'ajoute un dernier mot, on a des tracts, on peut les trouver à Renaissance catholique, 80 rue Pierre-Poncelette, à Issy-les-Moulineaux, ou téléphoner au 46 62 97 04, on leur fournira des tracts à distribuer partout.
Voilà. Merci. Monsieur de Beckett, chez Rizid, il parle de la procréation comme si c'était lui qui mettait au monde, mais c'est moi aussi. C'est moi aussi.
Il y a bien pour quelque chose.
Là, oui, c'est fait. Alors... quand même, deux messages pour finir, après j'arrête. Vouloir régler la démographie, vouloir régler la démographie est un manque de confiance et de foi en Dieu. La race humaine est une création de Dieu, laissons-lui le soin de régler son ordre lui-même pour que les hommes ne croissent pas à l'infini. Dieu a inventé la mort. Catholique, je pense que quel que soit le nombre des êtres humains sur la terre, le bon Dieu saura nourrir les petits-enfants. Confère l'évangile sur les petits oiseaux du ciel.
L'église des champs, oui.
L'église des champs. Il y a deux siècles, on ne pensait pas au pétrole, au soja. Quelles nouvelles ressources trouvera-t-on dans deux siècles, point d'interrogation. Prions pour les mères et les pères de familles nombreuses.
Ça,
et
bon,
ben, voilà.
Okay.
Merci, bravo.
À la
prochaine. Et ben, voilà, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Donc, il faut renvoyer, nous dit un auditeur, quand même, c'est vrai, oui, c'est très important ça. Il faut renvoyer les auditeurs convaincus du fait qu'il y a explosion démographique aux émissions de Pierre Chenu des 1er 8 mars 1994, où l'invité était Gérard-François Dumont et dont le titre générique était « De l'explosion à l'implosion démographique ». Ces cassettes sont commandables à Radio Courtoisie pour 140 francs, 110 francs pour les adhérents. Merci. Oui, oui, c'est très important parce qu'effectivement, il faut parler avec des chiffres en main. Et ces chiffres ont été donnés par Gérard-François Dumont, les 1er et 8 mars 1994. Donc, vous pouvez commander ces cassettes, tout est dedans. André Figueras, pardon de vous avoir...
Mais c'était fort intéressant, même si je suis peu compétent sur ces sujets, simplement comme banal père de famille qui n'a eu 3 enfants, qui en aurait eu volontiers davantage, mais les circonstances ne l'ont pas fait.
Alors, en tout cas, c'est une espèce d'enfant que vous nous apportez, là, ce
numéro. Ah oui, sur ce plan-là, alors j'en ai une quarantaine.
Alors, vous avez donc publié, vous publiez donc chez Roland Gaucher, aux éditions du Crapouillot, Le Crapouillot, magazine non conformiste, directeur Roland Gaucher. Vous publiez un numéro qui est placé sous votre entière responsabilité, je le signale
pour
la police de la pensée. Les procès sont orientés vers M. Figueras.
Je ne crois pas qu'il y en aura.
Qui n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, un numéro consacré à l'affaire Dreyfus.
Oui, puisque je rappelle que c'est, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, mais il faut le rappeler, c'est le centenaire du commencement de cette sombre et ténébreuse affaire. Et depuis longtemps, je m'y intéresse. À vrai dire, comme beaucoup de gens qui ont été éduqués en républicains, on fait ce qu'on peut, je croyais...
Vous vous êtes bien soigné. Ça
je croyais à l'innocence de Dreyfus, au complot antisémite, à la méchanceté de l'armée, enfin tous les bobards qu'on déverse à flot, jusqu'au jour où j'ai été interpellé, comme on dit dans le jargon moderne et ecclésiastique, par une certaine affaire Goldman. Je ne sais pas si vous vous la rappelez.
Bien sûr. Et comment ?
Ce Goldman, juif polonais né en France, comme il s'intitulait, était un truand, tout simplement, trafiquant de drogue, probablement assassin, en tout cas braqueur, et condamné comme tel par les assises, ayant passé à vue, en tout cas pour les braquages. Or, on a vu toute une communauté, Pierre Mendès France en tête, se lever pour sa défense en utilisant exactement les mêmes arguments que pour le capitaine Dreyfus. C'est-à-dire, on en veut à Goldman parce qu'il est juif, etc. Bon.
Et alors, exactement avec les mêmes arguments. Alors, je me suis dit, quand même, c'est très bizarre, parce que dans le cas de Goldman, les choses sont claires et nettes. Pourquoi est-ce qu'on réemploie, et lorsque par hasard, à propos de Dreyfus, ça aurait été d'aussi mauvaise venue qu'à propos de Goldman? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire Dreyfus. Et j'ai commencé à m'apercevoir d'une chose. Je ne suis pas arrivé à une conclusion définitive à l'heure actuelle, malgré tous les documents que j'ai pu fréquenter et tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu écouter. Mais je suis arrivé en tout cas à une certitude, c'est que tous les éléments que présentent les Dreyfusards sont faux. Ils sont faux en général par mensonge, par omission. Par exemple, prenez la grande encyclopédie Larousse en
disant. Oui. Attendez, excusez-moi, André.
Vous croyez que j'aille trop loin?
Non, pas du tout. C'est pas ça. Il y a longtemps que j'ai dépassé ce genre d'inquiétude. Non, c'est que je vous suis posé le problème résolu. C'est-à-dire qu'on est en train de supposer que tous nos éditeurs, y compris les jeunes gens de 14 ans qui sont venus me saluer au BBR, que. Bon, je parlerai tout à l'heure des BBR s'il nous reste 5 minutes, mais c'était un moment extraordinaire. Ah extraordinaire. Oui. Là, j'ai vu ce que j'ai appelé la France charnelle.
La vraie, oui, la France profonde.
Mais vraiment la France profonde, la France.
La France française.
Amoureuse d'elle-même, tout bon. Et j'ai vu donc des tout jeunes gens qui sont venus me voir, et je ne suis pas absolument certain qu'ils sachent de quoi il s'agit.
Oui,
donc, il faudrait que vous résumiez en quelques mots.
En quelques mots, ce n'est pas très facile, mais enfin, on va essayer. Donc, en 1894, comme vous l'avez dit, l'attaché militaire espagnol prévient quelqu'un de l'état-major qu'il se trame une trahison. Bon, c'est pas une nouvelle agréable et on essaye de ne pas y croire. Jusqu'au jour où une femme de ménage qui a été fournie à l'ambassade d'Allemagne par nos services secrets rapporte minutieusement les bouts de papier déchirés qu'elle pique dans la corbeille de l'ambassadeur ou de l'attaché militaire. Surtout de l'attaché militaire, car tout le monde sait que ce sont les attachés militaires qui sont en général les espions. Et un jour, elle rapporte un morceau de papier comme ça déchiré, que l'on reconstitue, et qui est l'offre d'un certain nombre de secrets militaires aux Allemands. Naturellement, ça commence à créer une grande émotion. Et on se dit, qui a fait cela? En comparant les différents éléments, on se dit que seul peut être au courant de choses très diverses un officier d'artillerie, stagiaire à l'état-major, c'est-à-dire ayant eu connaissance de toutes les catégories des armes. Alors ces stagiaires sont peu nombreux. On se dit, on va faire une analyse d'écriture, on va faire des comparaisons d'écriture. Et en s'y livrant, on a l'impression que cette écriture est fort semblable à celle d'un certain capitaine Dreyfus, dont jusqu'à présent personne ne s'est occupé spécialement, car il faut tout de suite détruire un argument des révisionnistes Dreyfusards. Il y avait à l'époque, dans l'armée française, 500 officiers juifs, dont aucun n'a jamais été l'objet d'aucune mesure de discrimination et n'a souffert de rien. D'ailleurs, au moment de l'affaire Dreyfus le plus brûlant, un seul, je crois bien un seul, a quitté l'armée, c'est le père de Jules Moc. Les 499 autres, ils sont restés, ils ne se sont pas sentis particulièrement mal à l'aise. Donc, les soupçons se portant sur ce Dreyfus, on se livre à une expérience, c'est-à-dire qu'on le fait venir sous prétexte d'avoir à écrire un texte, et ce texte qu'on lui fait écrire, c'est le texte de ce papier qu'on a trouvé, qui est connu dans l'histoire sous le nom de Bordereau. Et il semble qu'à ce moment-là, c'est tout au moins l'impression du colonel Dupaty de Clam qui mène l'affaire et de deux ou trois observateurs, on a l'impression que Dreyfus se trouble. On estime donc que de forts soupçons pèsent sur lui et on va examiner le cas du personnage, faire une enquête, on trouve un certain nombre d'éléments bizarres. Et finalement, Dreyfus est renvoyé devant le Conseil de guerre en décembre 1894, en qui siège à huis clos, ce qui n'est pas extraordinaire. Il s'agit de secrets de défense nationale. On n'a aucune raison de mettre au courant la terre entière. Et d'autre part, il est vrai aussi que le tribunal militaire est saisi d'un dossier dit dossier secret qui contient un certain nombre de pièces. On peut maintenant le consulter. Il y a un certain nombre de pièces dont aucune n'est une preuve formelle, mais qui crée ce que l'on appelle des suspicions concordantes. Et c'est sur ce dossier secret essentiellement que le tribunal va se décider. Alors là encore, les Dreyfusards disent c'est scandaleux, on va condamner quelqu'un sans lui avoir communiqué les pièces qui sont contre lui et sans les avoir communiquées davantage à son avocat. Il est vrai que si nous étions dans un procès normal et en droit courant, ce serait scandaleux. Nous sommes dans le domaine des secrets militaires. Et malheureusement, un certain nombre d'expériences prouvent que les avocats ne sont pas toujours des tombeaux. Par conséquent, dans le même cas, sans vouloir incriminer personne de l'époque, il n'était peut-être pas extraordinaire que l'on conserve le secret. En tout cas, les juges militaires, en leur âme et conscience, sans subir aucune pression car il n'y avait aucune raison, les juges condamnent Dreyfus unanimement pour trahison à la dégradation militaire et à la déportation au bagne. Alors, c'est là que nous pouvons commencer à feuilleter ce numéro du Crapouillot qui essaye de ne donner que des documents, car je n'ai pas voulu, vous parliez tout à l'heure de mon hypothèse, et nous en dirons peut-être un mot in fine, mais je n'ai pas voulu du tout la glisser dans ce numéro, je n'ai voulu donner que des documents objectivement afin que les gens constatent par eux-mêmes ce qu'il en est. Alors la première réaction après l'arrestation de Dreyfus est une visite qui est racontée par le préfet de police Louis Lépine, bien connu à cause du concours qu'il a inventé, des petits inventeurs. Louis Lépine, dans ses souvenirs, raconte que quelques jours après l'arrestation de Dreyfus, il reçoit la visite du grand rabbin Zadok Khan. Et voici ce que raconte Lépine. Le grand rabbin paraissait très monté. « Vous savez ce qui se passe, me dit-il. On veut envoyer au conseil de guerre un des nôtres. Si vous avez quelque influence sur ce gouvernement, c'est le cas de le montrer. Si pareille chose arrivait, vous porteriez la responsabilité de ce que je vous annonce, le pays coupé en deux, tous mes coreligionnaires debout et la guerre déchaînée entre les deux camps. Quant aux moyens de la soutenir, vous pouvez vous en fier à nous. » Bon, moi je n'étais pas dans cet entretien, je cite ce que dit Lépine, je lui en laisse la responsabilité, c'est tout de même quelque chose qui est inquiétant. Donc, Dreyfus est condamné, Dreyfus va être dégradé, on l'amène à l'école de guerre, et en attendant que le général d'Arras, qui doit procéder à lui retirer ses galons et à casser son épée, soit arrivé et que les troupes se soient mises en carré pour la circonstance, Dreyfus est gardé dans une petite pièce par un capitaine de la garde républicaine qui s'appelle Lebrun Renaud. Ce capitaine Lebrun Renaud affirme catégoriquement, il l'a signé, que Dreyfus, à ce moment-là, dans une circonstance qui devait être évidemment, quoi qu'il en soit, de son innocence ou de sa culpabilité, c'était évidemment une circonstance extrêmement éprouvante, la perspective que dans quelques instants, on va lui arracher ses galons, lui casser son épée et l'envoyer au bagne pour un officier, c'est affreux. Bon. Dans cette circonstance très émotionnelle, Dreyfus aurait donc dit au capitaine Lebrun Renaud, si j'ai livré des documents, ces documents étaient sans aucune valeur et c'était pour en avoir d'autres bien plus importants des Allemands. Ce qui est après tout une possibilité et une explication qui n'est pas, à ce moment-là, un fait de trahison, qui est le fait d'une manœuvre dangereuse. Alors, là encore, les révisionnistes Dreyfusards, puisque le mot de révisionniste n'est pas une création nouvelle, le mot révisionniste était employé couramment au temps de l'affaire Dreyfus pour désigner les gens qui voulaient la révision de sa condamnation. Les révisionnistes nous disent « Ah oui, mais Lebrun Renaud, après, a démenti avoir dit tout ça, il n'en a plus jamais parlé ». C'est faux. Lebrun Renaud, sur le champ, a été convoqué par le chef du gouvernement qui l'a prié de se taire parce que tout cela ébranlait beaucoup l'armée, la politique, et on souhaitait, dans les milieux officiels, que l'affaire se tasse le plus vite possible et qu'on n'en parle plus. Donc le brun Renaud, sur le moment, obéit et ne parle plus et dit aux journalistes, je n'ai rien à dire, tout cela, bon. Mais en 1906, quand il y aura la révision, le nouveau procès à Rennes d'abord et ensuite par la Cour de cassation, le brun Renaud, à ce moment-là, renouvellera entièrement ses affirmations.
André, est-ce que je peux vous couper une seconde?
Mais vous pouvez.
Pour une remarque, vous parlez de Lebrun Renaud, qui était l'officier qui était avec Dreyfus au moment où Dreyfus était dans une salle de l'école de guerre, je ne sais pas où était cette salle, mais et il attendait sa dégradation devant le front des troupes.
Voilà.
Moi, je trouve que ça, c'est pratiquement ce moment de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire la dégradation. C'est pratiquement l'événement le plus énorme de l'affaire Dreyfus.
Spectaculairement, sûrement.
Spectaculairement. Mais surtout, ce que je veux dire...
Et émotionnellement.
C'est vraiment la preuve de l'extraordinaire puissance de la pression sociale sur un individu.
Ah oui,
c'est l'écrasement d'un homme. C'est-à-dire que vous avez un homme qui est le capitaine Dreyfus. Donc on est dans l'hypothèse affirmée depuis longtemps de son innocence absolue. Voilà un homme qui est un officier français, qui est condamné pour un crime qu'il sait ne pas avoir commis. Enfin, qu'il sait ne pas avoir commis, je dis bien, on est dans l'hypothèse finale.
Oui, bien sûr.
En tout cas, il est certain de ne pas avoir commis de crime, puisqu'il dit lui-même à Lebrun Renaud que s'il a fait ça, n'était pas pour nuire à la France, mais au contraire pour tirer à l'ennemi des secrets encore.
D'ailleurs, je vous recoupe à mon tour, mais il y a un mot de lui qui va tout à fait dans ce sens. À la fin du procès de Rennes, quand le colonel Jouot lui dit, comme il est de règle, « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Il répond, « Mon colonel, je suis sûr d'être innocent. » Ce qui est une réponse étonnante.
La réponse est tout à fait
étonnante. Car sinon, on dit « Je suis innocent. Ouais. » Mais là, c'est bien reconnaître qu'il a fait quelque chose, mais qu'il croit que ce quelque chose était bien.
D'ailleurs, les historiens contemporains qui continuent à travailler sur cette affaire, de plus en plus, adoptent cette hypothèse que il n'est pas exclu que Dreyfus ait été soit le jouet, soit l'acteur volontaire conscient d'une manipulation destinée à tromper l'état-major allemand.
Oui, c'est d'ailleurs la thèse de Michel de Lambarès dont
voilà,
on dira un mot tout à l'heure.
Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan humain, il y a quelque chose qui est absolument, qui est prodigieux de force dramatique, c'est la façon dont cet homme va se prêter au spectacle de sa mise à mort. C'est-à-dire, on imagine Dreyfus le matin, qui s'habille en uniforme, qui met ses galons, qui prend son sabre.
Mais ses galons qu'on découd déjà pour qu'ils soient faciles à arracher.
Et qui se prête à tout cet apparat militaire, en sachant que ça va aboutir, pour lui, à une mise à mort sociale.
Ah oui, quelque chose de pire que d'être guillotiné.
Ouais. Moi, je trouve ça magnifique, parce que magnifique au sens humain,
oui,
la richesse de
la puissance dramatique.
Parce que quelqu'un qu'on va guillotiner, on peut le tirer par les pieds et par les bras,
Exemple, Hulmeau, qui a été un traître un peu plus tard, qui a été fusillé, je crois, il n'y a pas eu tout ce décorum. Enfin,
un fusillé, on le colle au poteau, on l'attache, on le tue, c'est ça.
Voilà.
Mais lui, il va se prêter, il va marcher au pas. Au milieu de la troupe qu'il conduit. Il va se mettre devant le fond des troupes, au garde à vous.
Car il a gardé l'attitude militaire.
Voilà. Ça, c'est quand même
il ne le fait pas comme une loque, il le fait comme un soldat.
Comme un officier.
Ouais.
C'est très étonnant, ça, cet aspect.
Ah oui,
Bon, je vous ai coupé, mais je vous rends la parole.
Alors donc, voilà Dreyfus déporté. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui seront un peu plus tard les plus acharnés des révisionnistes, c'est-à-dire les gens de gauche, Clémenceau, Jaurès, commence par être furibond qu'on ne l'ait pas fusillé. Jaurès est expulsé d'une séance de la Chambre pour avoir tempêté en disant « Vous avez épargné un traître parce que c'est un bourgeois comme vous. » Il fallait le fusiller.
Et alors que quelque temps avant, un jeune homme a été, vous le racontez dans le Crapouillot,
oui,
pour un jeune homme a été fusillé pour avoir arraché ses boutons d'uniforme et les avoir jetés à la figure du président du tribunal militaire. Mmh. Il est condamné à mort et exécuté. Et Clémenceau dit, voilà, vous avez tué un gosse parce qu'il avait jeté un bouton au visage du président du tribunal militaire. Et vous allez envoyer
Dreyfus
dans les jardins de Candide.
Ce qui, pour Luc Dubois, parle tout de même une définition un peu particulière. Ouais. En tout cas, donc, peu à peu, quand même, la famille, c'est Mathieu Dreyfus, le frère du condamné, qui va essayer de réunir des éléments, qui est persuadé de l'innocence de son frère, sûrement, et qui va essayer de réunir des éléments le prouvant, et essayer de réunir des gens qui veillent bien aller dans ce sens. Cependant, un élément nouveau va intervenir d'abord, qui semble très mauvais pour Dreyfus, c'est lorsque Godefroy Cavaignac devient ministre de la guerre.
Qui est un anti-Dreyfusard.
C'est un anti-Dreyfusard, mais il devient ministre. Oui, mais c'est un homme d'honneur. Et quand il devient ministre de la guerre, il souhaite prendre connaissance du dossier Dreyfus. Or, dans ce dossier, il trouve tout d'un coup une lettre qui sera appelée dans l'histoire le faux Henri. Il trouve une lettre censée être écrite par l'attaché militaire italien Panizzardi à l'attaché militaire allemand von Schwarzkoppen, et dans laquelle il est dit « il faut surtout que personne ne sache nos relations avec Dreyfus ». Et Cavaignac, ce document, personne ne l'a vu. Il dort dans le dossier, car un des mensonges le plus couramment proféré par les révisionnistes, c'est de dire « Dreyfus a été condamné sur un faux ». Il n'a pas été condamné sur un faux, ce faux n'a jamais servi, n'est jamais sorti du dossier. Jusqu'au jour où Cavaignac l'y trouvant, se rend à la chambre et dit « Messieurs », puisqu'il n'y avait pas de dame à l'époque dans l'hémicycle, « Messieurs, il y a dans le dossier la preuve formelle de la culpabilité de Dreyfus ». Ce qui est très mauvais pour les révisionnistes, parce que Cavaignac est connu comme un homme d'une grande honnêteté, et s'il dit cela, c'est vrai. Or, un capitaine de son état-major, le capitaine Cuignet, reprenant ce papier, s'aperçoit que c'est un papier trafiqué, qu'en réalité, ce sont des morceaux de lettres différentes qu'on a recollés pour leur faire dire ce qui n'était pas dit.
Il faut rappeler pour les jeunes générations, parce que c'est important de le dire, qu'à l'époque, il n'y a pas de photocopie. On est obligé de faire des trucages
d'une grande
maladresse.
Eh oui. Et alors, il se trouve que les carrés du papier, les lignes du papier ne concordent pas. Enfin, je ne sais plus exactement le détail technique. Et Cuignet avertit le ministre qui lui dit « Mais vous êtes sûr de ce que vous me dites ?» Regardez, il lui fait voir dans différents éclairages qu'Avaignac s'en rend compte. Il convoque le colonel Henri et là je donne la sténographie de l'entretien.
C'est impressionnant. Hein.
Au cours duquel Cavaignac finit par faire avouer à Henri qu'il a fait ce faux, dit-il, pour apaiser, pour tranquilliser, etc.
C'est très impressionnant à lire parce que c'est vraiment la sténographie de l'entretien et c'est un dialogue.
C'est dur.
C'est un dialogue de film d'une dureté effrayante. Hein.
Et à ce moment-là, Cavaignac, parce qu'il est un homme d'honneur, revient devant la chambre et dit « Messieurs, je me suis trompé, le document en question est un faux ». Si Cavaignac avait été moins honnête et qu'il n'ait pas été dire cela, sans doute l'affaire Dreyfus se serait éteinte, mais il a préféré être un honnête homme. Cela dit, il a ajouté « Je n'en reste pas moins convaincu de la culpabilité de Dreyfus ». Quant au colonel Henri, transporté, interné au Mont Valérien, on le retrouve mort, la gorge tranchée, dans la soirée. La thèse officielle, c'est qu'il s'est suicidé parce qu'il se sentait déshonoré, c'est possible. Des soupçons ont aussi... Chaque camp a accusé l'autre de l'avoir suicidé pour l'empêcher de parler. Le problème est en effet de savoir, c'est vrai, si Henri a fait ça de son propre chef ou s'il y a été incité, et dans ce cas, par qui. Parce qu'il y a tout de même un élément curieux, c'est que lorsque Cavaignac avait dit à la Chambre « Il y a dans le dossier un document décisif », Jaurès, qui était devenu entre-temps révisionniste, Jaurès s'est écrié « C'est un faux ». Et comment Jaurès pouvait-il le savoir? Alors, est-ce que c'est une intuition géniale, ou bien est-ce que c'est du côté révisionniste qu'on avait manipulé Henri, qui n'était pas très intelligent apparemment, pour lui faire fabriquer ce que Maurras, de son côté, a appelé le faux patriotique? En tout cas, malgré tout, l'affaire semble devoir s'arrêter. Dreyfus est au bagne. Il y a beaucoup de gens que son cas n'intéresse pas particulièrement. Le gouvernement souhaite qu'on en finisse. Les révisionnistes ne trouvent pas d'éléments fondamentaux pour faire repartir l'affaire. On va trouver un idiot utile, si vous permettez, en la personne d'Émile Zola, qui va écrire un très long factum adressé au président de la République, que l'on connaît en général sous le titre de J'accuse, que Clémenceau a conseillé de donner et qui a occupé toute la première page de l'Aurore un jour.
Et dont vous publiez l'intégrale.
Et dont je publie l'intégrale parce que, en général, on ne donne que les derniers paragraphes. J'accuse le colonel du Paty de Clam, etc., ce qui ne manque pas d'une certaine gueule, mais qui vient à la suite d'un très long texte. Or, ce très long texte, je pense que tout le monde, en le lisant, trouvera que ce texte ne tient pas debout. C'est une série d'affirmations, d'insultes, mais aucun élément probant. D'ailleurs, en plus, je pense que quelqu'un aussi, parce qu'il fallait que ce texte déclenche un recommencement des choses judiciaires pour que les révisionnistes retrouvent une espérance de faire marcher leur camp. On a donc conseillé à Zola, car il y avait évidemment beaucoup d'éléments de diffamation dans son texte, mais il fallait un qui fut impossible au gouvernement de laisser passer. Et on lui demande donc de faire écrire que le conseil de guerre a acquitté Esterhazy par ordre. Il faut dire maintenant qui est Esterhazy, parce que je brûle les étapes, et en effet, pour les gens qui ne sont pas au courant. Donc, la thèse des révisionnistes était que le bordereau n'avait pas du tout été écrit par Dreyfus, mais en réalité par un certain commandant Esterhazy, dont l'écriture était extrêmement ressemblante. C'est vrai que les deux écritures sont presque identiques.
Vous publiez d'ailleurs les facsimilés, deux pages de facsimilés qui permettent de voir à quel point elles se ressemblent.
L'une par Bertillon à l'époque, l'autre faite au laser récemment au CNRS, qui arrive à des conclusions différentes, mais celle du CNRS ne dit pas du tout que ce soit Esterhazy qui est innocente Dreyfus, mais ne culpabilise pas Esterhazy, ce qui va encore aller dans le sens de Lombarès. Donc, l'affaire a pris cette tournure. Esterhazy est accusé par Mathieu Dreyfus, qui écrit au président de la République pour lui dire le vrai coupable, c'est Esterhazy. C'est assez étrange parce qu'il se trouve que Mathieu Dreyfus a opté pour la citoyenneté allemande parce qu'ils ont des affaires en Alsace annexées et qu'il est obligé, pour sauver ses affaires, il n'y a pas à lui en jeter la pierre. Mais c'est donc un citoyen allemand qui écrit au président de la République française pour dénoncer un officier français. C'est un peu particulier. Quoi qu'il en soit, on fait donc comparaître Esterhazy devant un conseil de guerre qui effectivement l'acquitte parce que les révisionnistes n'ont pas du tout fourni d'éléments décisifs prouvant sa culpabilité. Et c'est là qu'on fait dire à Zola que le conseil de guerre l'a acquitté par ordre, ce qui est évidemment tout à fait infamant pour un conseil de guerre. Le gouvernement ou les militaires déposent plainte. C'est comme cela qu'a mis Zola comparaître devant la cour d'assises, puisqu'à l'époque, les procès de presse étaient jugés aux assises, ce qui était d'ailleurs, à mon avis, bien meilleur pour les journalistes, parce qu'ils avaient affaire au public populaire plutôt qu'à des magistrats dont l'indépendance n'est pas toujours une certitude. Et Zola, qui n'apporte rien prouvant ses dires, Zola est condamné, et c'était lourd quand même, à 1 an de prison ferme et à une amende. Et là, alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si vous prenez même la grande encyclopédie Larousse en 18 volumes, quand elle vous raconte l'affaire, on dit Zola fut condamné, la condamnation fut cassée par la Cour de cassation, un point. C'est vrai. Mais ça n'est pas toute la vérité, car la Cour de cassation a bien cassé, mais elle a renvoyé devant la cour d'assises de Versailles, qui a confirmé la condamnation de Zola, condamnation qui cette fois n'a pas été cassée, et la preuve en est que Zola a fichu le camp en Angleterre pour ne pas faire de prison, en attendant qu'il y ait meilleures circonstances. Bon.
Alors, finalement,
les révisionnistes obtiennent tout de même que Dreyfus soit rejugé. Ils obtiennent une cassation du premier jugement du Conseil de guerre, une cassation qui est faite dans les règles juridiques normales, c'est-à-dire que l'affaire est renvoyée devant un autre Conseil de guerre qui va siéger à Rennes. On ramène donc Dreyfus de l'île du Diable, on lui remet son uniforme, il n'est plus condamné, puisque la condamnation a été cassée, mais il est toujours présumé coupable, ou présumé innocent, comme on voudra. De toute façon, il est inculpé de trahison et il va comparaître devant ce Conseil de guerre. Là, le gouvernement souhaitait passionnément qu'il y ait un verdict d'acquittement qui aurait permis, à son idée, qu'on n'en parle plus. Et le Conseil de guerre ne suit pas. Le Conseil de guerre condamne Dreyfus, mais avec circonstances atténuantes, à 10 ans de détention. Et là, il y a un épisode assez drôle, c'est que le colonel qui présidait s'appelait donc Jouhaud, ça ne s'écrit pas comme le général actuel, et sa femme donnait une réception à ses amis ce jour-là. Et quand son mari rentre, elle lui demande le verdict, et elle revient dire à ces dames, qui attendaient passionnément le résultat, « Il est condamné, mais il y a deux couillons qui ont voté pour l'acquittement. » Et elle ne savait pas que l'un des deux couillons était son mari, qui estimait qu'il fallait... Bon. Alors, Dreyfus, à peine condamné, le président de la République, Loubet, le gracie. Ce qui fait l'affaire de Dreyfus, parce qu'il ne donnait pas du tout, et on comprend bien, à retourner à l'île du Diable, ce qui ne fait pas l'affaire des révisionnistes, qui, eux, ont monté une opération politique considérable et qui veulent que ça continue. Et ils disent à Dreyfus, refusez la grâce. Et Dreyfus n'a pas envie, parce qu'encore une fois, l'île du Diable, c'est tout de même pas le jardin de Candide, quoi qu'en croyait Clémenceau, et par conséquent, on comprend fort bien qu'il n'ait pas envie d'y retourner. Mais à partir de ce moment-là, il devient le traître Dreyfus pour les révisionnistes, puisqu'il ne veut plus jouer leur jeu. Enfin, en 1906, l'affaire arrivera tout de même de nouveau devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation, cette fois, dans des conditions juridiquement très étranges, la Cour de cassation casse sans renvoi.
Sans renvoi.
Alors, j'ai donné un article très remarquable d'Isorni. Isorni m'a permis de reproduire cet article très remarquable, où il juge la légalité de l'arrêt de la Cour de cassation, dont M. Badinter, vous vous rappelez, quand il est devenu garde des Sceaux, il a fait réunir toutes les chambres de la Cour pour célébrer le 75e anniversaire de cet arrêt. C'est quelque chose d'assez ahurissant.
C'était assez rigolo. Hein.
Et puis alors, j'ai donné, c'est long, c'est très bien présenté, à mon avis, par le metteur en page, le texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation, et en face, toutes les objections
faites par Roson.
Oui. Chacun, surtout les gens qui ont un peu de notions juridiques, jugeront. J'en ai voulu donner, encore une fois, que des documents. Et chacun y prendra, mais chacun s'apercevra que ça n'est pas aussi simple et aussi catégorique qu'on nous le raconte.
Alors, André, il nous reste 4 minutes.
Oui.
Je voudrais qu'en une minute, vous évoquiez la personnalité de Michel de Lombarès.
Oui. Michel de Lombarès, qui est un homme très âgé, mais qui a l'esprit admirablement clair, s'est intéressé à l'affaire Dreyfus parce qu'il a commencé des recherches historiques sur d'autres sujets. Il a commencé par s'occuper d'Austerlitz et d'Iéna. Il s'est aperçu que l'histoire ne coïncidait pas toujours avec la véracité des documents. Et il s'est intéressé à l'affaire Dreyfus. Et lui, sa thèse, je souhaite qu'elle soit la vérité, parce que ce serait très bien pour tout le monde, sa thèse, c'est qu'il n'y a pas eu de traître, que ni Dreyfus ni Esterhazy n'étaient des traîtres, et que, tout simplement, il s'est agi d'une manipulation de services secrets pour se tromper les uns les autres, en ne sachant pas qui a commencé, si c'est les Allemands, ou lui croit, je crois plutôt que ce sont les Allemands qui ont essayé de faire une manipulation, et que par conséquent, mais alors, quand il a été annoncé qu'on va tourner un film sur l'affaire Dreyfus, dont nous savons très bien d'avance de quelle manière il sera conçu, avec le concours de l'armée française, qui doit prêter ses militaires pour faire les figurants de cette parodie. Et Lombarès a écrit à Léotard en lui disant « Vous allez présenter une version qui consistera de toute façon à affirmer qu'un officier français était un traître. » Moi, je dis qu'il n'y avait pas de traître et ça serait beaucoup mieux pour l'armée française. On pourrait peut-être réfléchir à la question. Monsieur Léotard n'a pas jugé utile de répondre.
Parce que Léotard ne sait pas lire, tout le monde sait ça.
C'est peut-être.
Il connaît un peu la maçonnerie, mais encore.
Et les murs. Et
voilà.
Oui.
André, merci. Je ne sais pas si c'est un compliment. Mon grand-père est mort à 90 ans, dit un auditeur. Chaque fois que je le voyais à la fin de sa vie me raconter la guerre de 14, ce soir, j'ai l'impression d'écouter mon grand-père.
Oui, alors, il y a aussi des événements, et encore quoi, la guerre de 14 avait existé aussi, et nous en payons encore les conséquences, et de l'affaire Dreyfus aussi, alors il faut parler de rien, peut-être. Rien qui soit antérieur à la naissance.
Rien
antérieur.
45, tout est...
Oui, à De Gaulle, oui, c'est ça.
Enfin, 40, disons 40, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est les jeunes qui téléphonent et qui disent l'actualité.
C'est de l'actualité.
En quoi l'affaire Dreyfus est-elle, en septembre 1994, plus d'actualité que l'affaire Callas, nous demande un auditeur, ou que la révocation de l'édit de Nantes, ou que les disputes entre Armagnac et Bourguignon? Ben, monsieur, si vous voulez une réponse simple, vous n'avez qu'à lire les journaux. Vous allez voir l'affaire Dreyfus est plus d'actualité que l'affaire Callas ou que la révocation de l'édit de Nantes. Plusieurs auditeurs téléphonent en disant Hulmeau n'a pas été fusillé, ce qui est vrai.
Oui, c'est vrai, il a été déporté, finalement.
Dans le crapouillot, vous expliquez.
Oui,
vous
c'est expliquez, exact. L'ange m'a forcé.
Un auditeur dit qu'il a été gracié pour cause de maladie et qu'il est revenu en France dans les années 20. Et un autre dit, effectivement, il est rentré après la guerre à Paris et il s'est converti au catholicisme avant de fonder une secte.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est quelqu'un qui a dû lire le crapouillot mieux que moi.
Et puis, ceci, il est très émouvant de vous entendre vous extasier sur la dignité de Dreyfus lors de la cérémonie de dégradation. Hélas, la presse nationaliste de l'époque, y compris ses plus grandes plumes, nous le présentait comme un être répugnant, veule et simultanément méprisant, au défi de toute cohérence, et pire encore, mettait ses constatations en rapport avec l'origine ethnique de Dreyfus.
C'est vrai que Barrès et Daudet n'ont pas été très tendres.
Irez-vous jusqu'à condamner le compte-rendu de ces grands ancêtres du nationalisme? Un peu de courage, messieurs, vous y gagnez en crédibilité. Alors, je vais répondre à cet auditeur deux choses. D'abord, je suis ni le fils, ni l'adorateur de Barrès et Daudet, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais ils peuvent aussi se tromper.
C'était des polémistes,
voilà,
comme nous.
Ce qu'ils écrivent n'est pas gravé dans le marbre avec un stylo d'or, d'une part, d'ailleurs ça serait difficile, et d'autre part, vous-même, cher auditeur, vous dites que ces grandes plumes le présentaient comme un être répugnant, veule, et simultanément méprisant, et vous ajoutez vous-même au défi de toute cohérence. Effectivement, je crois que dans la polémique, il n'y a pas de cohérence. Je pense, quant à moi, qu'il y a une grande dignité de la part du capitaine Dreyfus d'accepter de se prêter au grand spectacle social.
Il pouvait difficilement le refuser.
Il pouvait se suicider.
Il pouvait
refuser de comparaître.
Ou
il pouvait rester dans sa cellule. En tout cas, il a, ce que je dirais, marché dans le spectacle social de sa dégradation. Et ça, je ne dis pas que c'est admirable. Je dis simplement que ça montre à quel point, à cette époque-là, on avait le sens extraordinaire
de la
discipline et du comportement. Très vite, avant de céder le micro à Daniel Amiche pour cette deuxième partie qui sera consacrée au fou du roi, quelques messages. La communauté catholique traditionnelle de Saint-André de Saint-Maurice a repris les catéchismes traditionnels. Alors, pour simplifier, tous les renseignements, vous pouvez les obtenir au 43-41-80-64, 43-41-80-64, catéchisme traditionnel de la communauté Saint-André de Saint-Maurice. C'est pour l'Est de Paris, Val-de-Marne. La fondation Donne-Thiers, 27 place Saint-Georges, donne une série de conférences de Pierre Tardif à 18h. La première conférence, c'est à 18h le mardi 4 octobre, 94. Richard Vanier et Mathilde Vézandon. Si vous voulez En savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, l'accent n'est pas bon. Mathilde Wesendonck, je peux bien dire Richard Wagner und Mathilde Wesendonck. Mais voilà, alors c'est donc le 4 octobre 94 à quelle heure donc? Ben, c'est pas indiqué, ça doit être le soir. Le prix est de 65 francs et tous les renseignements au 48 78 14 33. Je vous conseille de vous préparer pour le pèlerinage de Martel qui aura lieu le dimanche 30 octobre 94. Des cars sont prévus au départ de Paris le samedi matin. On passera la nuit à l'hôtel dans la région de Martel et retour dans la journée de dimanche. Le prix du voyage aller-retour n'est pas indiqué, mais ça ne devrait pas être très très cher et c'est toujours extrêmement sympathique. Ceux qui participent à ce pèlerinage depuis quelques années le savent. Je vous annonce également la parution, mais on en parlera beaucoup plus longuement avec lui, du guide jeunesse de François-Marie Algou qui propose 1000 adresses d'associations pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les parents ou les parents de jeunes gens ou les jeunes gens eux-mêmes sur tous les problèmes, si j'ose employer ce mot-là, auxquels les adolescents et les jeunes gens peuvent et les jeunes filles peuvent se heurter. Ça va de c'est un peu gênant de lire la liste de cette façon parce que c'est triste, mais de accident à viol en passant par accueil, adolescent, adoption, dignité de la personne, enfant en difficulté, drogue, enseignement, gens du voyage, hébergement, information, jeune mère, loisirs, placement, prison, recherche, réintégration, solidarité, solitude, etc., etc. C'est vraiment un document indispensable pour tous les gens qui s'occupent de jeunes gens. Voilà, les appels nous demandent, pour nous demander si le crapouillot est paru. Oui, il est paru, il paraît demain matin dans les kiosques, vous pourrez donc vous le procurer. Le crapouillot, magazine non conformiste, le petit Dreyfus illustré, 30 francs. Marc Dem.
Je suis là.
Bonsoir Marc, bonsoir. Donc nous avons quelques minutes à voler à Daniel Amiche pour que vous nous donniez un aperçu du contenu de votre lettre confidentielle d'information religieuse Iota Unum. Alors, si vous voulez.
Alors, dans le prochain numéro, oui, qui paraît donc samedi, c'est toujours le samedi que Iota paraît. Bon, je parle d'abord d'une entreprise qui n'est certainement pas unique, mais enfin dont j'ai détecté l'existence à Poissy, la ville de Saint-Louis. La paroisse de Notre-Dame de Poissy lance une action d'évangélisation au cours de l'Avent qui se présente bientôt, enfin dans quelques semaines. Alors cette action d'évangélisation a ceci de particulier, qu'elle est faite en commun entre protestants et catholiques. Ce qui est assez étonnant, à mon avis, parce que pour évangéliser ensemble, il faut avoir la même façon de lire l'Évangile. Et les uns le lisent comme ils l'entendent, les autres le lisent avec l'interprétation de l'Église. Bon, c'est une des multiples manifestations de l'œcuménisme actuel qui, voyez-vous, dans une paroisse bien donnée, consiste en une véritable fusion entre paroisse et temple.
C'est comme ça que vous allez nous remonter le moral, Marc Dem?
Oui, alors écoutez, je n'ai pas grand-chose pour vous remonter le moral.
Regardez-donc.
Sinon que...
Quelle soirée!
Une de nos collaboratrices très distinguée revient de Suède.
Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'elle est revenue. J'espère qu'elle a rapporté du saumon et des herbes.
Je n'ai pas regardé dans son sac, mais ouais. Il doit bien y avoir un ou deux saumons.
Parce qu'il faut dire aux auditeurs de Radio Courtoisie qui s'en contrefichent que, non pas de votre fille, mais que cette collaboratrice n'est autre que votre fille, qui est une cuisinière de génie en ce qui concerne le saumon. Voilà. Le reste, je ne sais pas, mais... Ça, je dois dire que ce saumon est le plus beau jour de ma vie. Donc, elle est rentrée de Suède.
Alors, donc, Bénédicte Dem, puisqu'il faut l'appeler par son nom,
oui,
a rapporté différentes choses, elle a enquêté sur différents sujets, et vu que l'Église luthérienne était en recul, que Luther était en baisse en Suède, de plus en plus, c'est-à-dire que la religion catholique fait des progrès, puisque les catholiques qui étaient après... Vous savez que Gustave Vasa avait interdit le catholicisme dans son royaume. Bon, donc c'est peu à peu que les catholiques ont pu se développer. Et tandis qu'il y en avait 3500 en 1920, ils sont 150 000 aujourd'hui. Et le fait des ordinations de femmes, de l'ordination des femmes de l'Église, que l'Église luthérienne d'État accepte maintenant, ne fait qu'augmenter le nombre de ces catholiques.
Mais catholiques conciliaires.
Mais ce sont des catholiques pour l'instant.
Oui, d'accord, bon, n'insistons pas. N'essayons pas d'en savoir plus. Contentons-nous de peu.
Il y a aussi des moines trappistes qui ont été s'installer dans les pays scandinaves, ouais. en Norvège. Et on trouve aussi des brigitines, pardon, qui se...
Ah ben ça, c'est normal. En Suède, c'est vraiment la moindre des choses.
Mais enfin, ce sont des choses qui étaient bien éteintes jusqu'ici. Si vous voulez, alors, une troisième grande chose...
Disons, mais ça, c'est une bonne nouvelle, ce que vous venez de nous donner.
C'est une bonne nouvelle, non. Oui.
Oui. Alors, une troisième.
Les moins, cette affaire de la grammaire qui a été éditée par les éditions Payot... Grammaire française et impertinente.
Ah ben oui, je vais en faire un article dans le prochain Libre Journal.
Bon, eh bien, j'en ai
mais dites-en un mot quand même, parce que après
donc,
tout.
Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Enfin, nous nous retrouvons. Oui, c'est quelque chose d'épouvantable.
Ah, c'est incroyable.
Oui, ce sont les exemples. Hein, tous les exemples sont tordus, mais tordus. Alors, comme
ne les donnez pas tous, parce que mes lecteurs
en
seraient.
Trois, par exemple. Hein, bon, le drame de la chasse. Le chasseur prend son père pour un sanglier et l'abat, puis il le mange. Bon, c'est drôle, hein. Bon.
Oui, ça fait mourir de rire les enfants, probablement, d'ailleurs, ça les fait beaucoup rire.
Oui. Bernard a mis feu à sa grand-mère en enfonçant un tison dans son chignon. Très bonne idée à donner aux enfants, hein. Bon, et alors, les verbes, hein, on apprenait le verbe aimer dans le premier groupe, j'aime, tu aimes, il aime. Ici, c'est je hais, pour changer. Il n'est plus du premier groupe.
Ben non, j'allais vous le dire, ça colle.
Alors c'est « Je hais ma mère, tu hais ton père, il hait sa sœur, nous haïssons notre grand-mère », etc. Bon. Et du point de vue religieux, il y a énormément aussi de choses de ce genre. Par exemple, le pape a fait des papouilles aux petits papous. Très drôle,
oui,
aussi.
Oui. Hein. Bon. Mais si vous remplacez par autre chose que le pape, ça devient exactement...
Alors là, ça passe au tribunal.
Voilà, ça m'étonnerait que ça soit supporté par la police de la pensée.
Oui.
Eh bien, pour en savoir plus, nos auditeurs pourront lire la Iotaunum, qu'ils peuvent se procurer boîte postale, en écrivant boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye-Sédex. Mais ils pourront également se procurer le prochain numéro du Libre Journal de la France courtoise, qu'ils peuvent commander 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris, et où il y aura un papier circonstancié sur cette grammaire qui est passible des tribunaux. Et je pense d'ailleurs que la griffe va mettre son nez là-dedans, parce que véritablement, il s'agit d'un pourrissage de la tête des enfants qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Merci mon cher Marc, à la semaine prochaine.
Merci Serge.
Eh bien voilà, j'arrive à la fin de cette heure et demie prolongée du quart d'heure de Rabelais. Merci mon cher Daniel de m'avoir prêté ce quart d'heure. Je remercie les auditeurs d'avoir été patients jusque-là. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde. Thank you.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous retrouvent pour cette 41e ou 42e chronique des Fous du Roi. Je ne sais plus le nom, mais quand on aime, on ne compte pas. Vous êtes d'accord avec moi, chère Anne-Laure?
Mais tout à fait, Daniel.
Et voilà, une voix charmante qui nous est revenue dans cette station après nous avoir abandonnés traîtreusement pendant de nombreux mois.
Mais oui, je vous ai beaucoup manqué, de nombreux mois. Un mois et demi de vacances, bien mérité.
C'est beaucoup, vous savez, ça fait beaucoup. Parce qu'il n'y a pas la télévision, les gens vous voient pas, mais s'ils vous voyaient, ils comprendraient pourquoi j'étais très triste de ne plus vous voir pendant un mois et demi. Alors également Pierre-Emmanuel, qui est là, lui c'est un fidèle, sauf aussi qu'il m'a laissé tomber pendant un mois à peu près.
Ah ben oui, mais on a des vacances, on les mérite, comme dit Anne-Laure.
Bah oui, oui, enfin les vacances, c'est un mot que j'ai retiré de mon vocabulaire. Et puis alors Xavier Saint-Delphin aussi, qui nous a donné un bon coup de main pendant le mois d'août.
Oui, voilà, j'étais vacataire, j'espère être titularisé maintenant.
Ça dépendra de l'enveloppe, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Donc merci aux auditeurs de se joindre avec nous jusqu'à 9h05, ça nous laisse à peu près 1h05 d'émission, c'est-à-dire ça va être très court. Alors je tenais bien sûr à présenter les invités qui nous font l'amitié de venir ce soir pour parler de différents sujets très variés. Ce soir, c'est quelque chose de très très varié, puisque nous allons recevoir Monsieur Jean-Paul Clément, qui, comme chacun le sait, sur Radio Courtoisie, dirige la maison Chateaubriand, et vous êtes déjà venu à plusieurs reprises à ce micro, sinon au mien du moins, celui de mes consoeurs et confrères de cette station. Nous allons parler d'une exposition qui s'appelle « De l'été noir à la poire ». Alors, c'est un peu mystérieux, mais nous allons en savoir plus tout de suite. J'ai aussi le plaisir de recevoir François Lebrun, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Rennes 2, qui a édité, au sens anglo-saxon du terme, un livre qu'on pourrait dire des mémoires, un journal, enfin c'est une formule, on verra tout à l'heure, intermédiaire, d'un monsieur qui s'appelait Marie Dubois, qui était gentilhomme vendômois, qui a des valets de Louis XIII, valets de chambre de Louis XIII et de Louis XIV. Des mémoires tout à fait exceptionnelles. Et puis, alors un pilier de cette émission et de cette station, Jacques-Charles Gaffiot, mais il l'est nécessairement, voilà, président de l'association Louis XVI, entre autres, mais surtout, comment je parle, moi, ce soir? Je l'ai prié, Daniel. Comme je peux.
Oui.
J'éructe, là, ça va pas du tout. Bon. Qui vient nous parler d'une exposition qui vient de s'ouvrir depuis hier à Paris, à la mairie du 5e arrondissement, qui, sur les l'art chez les Clarisses de France. Tout à fait remarquable. Moi, j'ai une grande passion pour les Clarisses. Donc, nous allons parler de ça, immédiatement. En attendant, eh bien, nous allons avoir quelques petites pauses musicales. Ce soir, nous avons un seul auteur et une seule cantatrice. L'auteur, c'est Michel de Montéclair. Alors, pour Montéclair, il est né en 1666 et puis il est mort en 1736. Il n'a pas eu de chance du tout parce qu'il s'est situé entre le marteau de Lully et l'enclume de Rameau. Ce qui fait qu'il n'a pas eu beaucoup de place pour s'exprimer. Mais c'est un auteur, un compositeur tout à fait remarquable. Alors, on va entendre des cantates, des cantates françaises d'ailleurs. On est sur Radio Courtoisie, radio de langue française, autant que vous êtes français, y compris quand on chante. Et nous allons entendre quelques très jolis morceaux qui sont interprétés par Jacqueline Nicolas, que vous connaissez aussi, qui nous avait fait l'amitié déjà de venir dans une de ses émissions. Alors, nous allons entendre un premier extrait de cette cantate qui s'appelle Le Retour de la Paix. Je veux dire que c'est assez bien indiqué parce qu'actuellement, plus on parle de la paix, plus il y a la guerre. Tout le monde a remarqué, hein, c'est terrible. Alors voilà, nous allons écouter Jacqueline Nicolas, c'est un disque Pierre Verani, puis nous allons tout de suite après passer en compagnie de nos invités le restant de cette soirée.
Dans le mot que la creuse guerre en
Voilà, c'était assez joli. Enfin, je pense que ça aura plu aux auditeurs. Enfin, j'espère que ça leur a plu, parce qu'on va en repasser deux autres. Alors, si ça leur plaît pas, ça va être très dur. Alors, je salue bien sûr Jean-Paul Clément, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Clément. Donc, vous êtes le directeur de la maison Chateaubriand. Donc, bon, je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie connaissent cette maison, mais peut-être pour ceux qui viennent de naître, parce qu'il en est tous les jours, bien sûr, sur cette antenne, il faudrait nous préciser... Non, je pense pas à vous, vous êtes déjà né, bien né. Non, je pense à des auditeurs qui découvrent cette station et qui restent collés, parce que vraiment c'est une station tout à fait particulière. Alors, peut-être nous présenter un peu avant de parler d'exposition proprement dite, cette maison Chateaubriand.
Cette maison de Chateaubriand se trouve dans les Hauts-de-Seine, dans le sud, à Châtenay-Malabry. Et Chateaubriand y a vécu de 1807 à 1817. Alors, vous me direz, 10 ans, c'est vraiment très peu. Mais il a vraiment marqué son passage, et cette maison qui n'était rien lorsqu'il est arrivé est devenue sa maison propre. Il l'a transformée, il y a installé des cariatides, des colonnes, et même encore quelques décors néo-gothiques, puisqu'il annonçait ce goût du troubadour qu'on retrouvera ensuite tout au XIXe siècle avec les romantiques. Et il a surtout planté un parc, et ce parc existe encore. C'est-à-dire que c'est vraiment une curiosité dans un département très urbanisé de trouver un parc planté par un écrivain qui fait environ 13 hectares à peu près, avec une bonne quinzaine d'arbres magnifiques, des cyprès, des cèdres, des catalpas et d'autres arbres encore à être pourpres en particulier, qui sont contemporains de l'installation de Chateaubriand. Alors, depuis 1987, cette vallée aux loups, puisque tel est son nom, qui évoque à la fois le désert, car c'était un endroit désert, mais où tout de même on aimait venir y installer des maisons de plaisance. Il y a tout autour un sénateur d'Empire, les Girardins, enfin tous avaient des maisons de campagne à cet endroit-là. Eh bien, la vallée aux loups est ouverte au public depuis 1987, et dans cette maison, nous y organisons une exposition annuelle. Donc cette année consacrée à la caricature politique, mais les années précédentes à Chateaubriand, les sentiments de la nature, Chateaubriand et la Révolution française, Madame de Chateaubriand qui était un peu la méconnue dans la maison, alors on a parlé d'elle aussi.
Je vous remercie au nom des dames.
N'est-ce pas? Et elle méritait d'ailleurs d'être sortie de l'oubli. Et puis nous avons bien sûr la maison qui a été reprise, restaurée, qui contient un certain nombre de collections, de souvenirs importants sur Chateaubriand, des appartements d'hôtes, une bibliothèque de près de 6000 volumes, des prix d'histoire qui seront décernés à la fin du mois de novembre, toute une activité et surtout des heures romantiques de la vallée aux loups qui ont lieu à partir de septembre. La première a eu lieu avant-hier et qui continue jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire que nous avons vraiment des spectacles presque tous les mardis où nous présentons, nous allons entendre Chateaubriand ou ses contemporains et puis la musique qui pouvait être celle de son temps. C'est-à-dire que nous marions littérature et musique. Alors ces spectacles ont lieu, encore une fois, sur deux saisons, une saison de printemps, une saison d'automne, celle qui vient de commencer, qui encore une fois s'achèvera en décembre. Et puis l'exposition qui a été inaugurée le 12 septembre et qui, elle, ira jusqu'au 23 décembre.
Donc, alors, elle va durer près de 3 mois. Revenons à cette exposition de caricatures politiques que vous avez titrée « De l'été noir à la poire ». Oui. Alors, je dois dire que...
Je peux poser la question pour paraître moins ridicule, peut-être, parce que dû à mon jeune âge, est-ce que je peux poser la question, ce que c'est qu'un été noir ?
Été noir.
Oui.
Non, ça, je comprenais ce que c'est que l'été
noir. Pas moi, mais pas moi.
Bah, c'est pour éteindre.
Mais oui, mais c'est quoi? C'est la petite cloche qui est, enfin, le petit truc cylindrique pour éteindre des bougies.
Ben voilà, alors voilà, d'accord. Voilà, alors monsieur, voilà, monsieur.
Vous montez presque, je ne veux pas dire le pain de la bouche, mais la réponse que l'on pouvait donner. Donc éteindre une chandelle, c'est éteindre la lumière. Et qui éteint la lumière à l'époque de la Restauration? Ce sont naturellement les Bourbons et tous ceux qui sont rentrés avec eux. Donc les libéraux et les bonapartistes surtout, qui ont pourtant pâti de la censure de la presse pendant tout l'Empire, et qui brusquement se révèlent plus libéraux que les autres, et qui s'attaquent aux Bourbons rentrés, comme on sait, dans les fourgons de l'étranger.
Alors, guillemets, on a mis des guillemets qui ne sont pas entendus à la radio.
Voilà, mais qui sont présents, je crois, dans mon propos ou dans l'insistance que j'y mets. Donc cet éteignoir est une invention d'un journal qui a eu une très brève existence, mais où nous avons décelé les premières esquisses du jeune Delacroix, qui est à l'époque donc fait ses premiers dessins, ses crayons, si je puis dire, dans un journal qui s'appelle Le Nain Jaune. Et Le Nain Jaune sera particulièrement virulent sous la première Restauration, pendant les 100 jours, en représentant toujours de manière caricaturale et très forcée, constamment, nous avons par exemple les oies et les dindons qui naturellement sortent des Tuileries en s'égayant. C'est au moment où l'aigle lui-même et sa violette débarquent au golfe Juan. Donc il y a une sorte de systématisation qui est faite. Et alors le Nain Jaune a inventé deux ordres. L'ordre de l'éteignoir, qui est adressé à tous les hommes immobiles, sous-entendu tous ceux qui n'ont rien compris, rien appris, et qui rentrent de l'étranger. Chateaubriand dirait d'ailleurs qu'ils étaient peu nombreux, car la plupart s'étaient ralliés à Napoléon. Toutes les grandes familles sont déjà rentrées. Donc c'est juste une petite cohorte, mais enfin, on a tendance à élargir cela à tout un milieu. Donc, l'éteignoir, eh bien, il y a là toute une invention, on reçoit des insignes, un brevet, des listes sont dressées, et les récipiendaires reçoivent à leur domicile le titre qui les fait chevalier de l'éteignoir. Alors il y a des cérémonies qui sont annoncées, et nous avons montré un certain nombre de ces caricatures, qui sont très, très amusantes, bien sûr, et qui ont un effet, évidemment, très important, car elles ont une diffusion assez large, et elles touchent un public qui ne serait pas nécessairement intéressé par des brochures politiques d'accès parfois un peu difficile, mais la gravure, et plus tard la lithographie, parle tout de suite à ce qu'appelle un contemporain, c'est les Hugo dans leur conservateur littéraire, parle directement à l'instinct, beaucoup plus qu'à l'intelligence. Alors c'est le premier ordre qui crée, il y en a un second qui est amusant aussi, que nous présentons, c'est évidemment l'ordre de la girouette. Et le premier d'entre eux, le grand maître, c'est le prince de Bénévent, c'est Talleyrand, l'homme à six têtes.
Il n'a pas été dissous, cet ordre, il existe toujours.
Oui, c'est bien ce que j'allais dire. Oui,
c'est un ordre de tous les temps. Oui. Talleyrand, lui, s'est arrêté tout de même avec la monarchie de Juillet.
Parce qu'il est mort, je crois.
Parce qu'il est mort. Il a été nommé, son dernier poste, important d'ailleurs, parce qu'il est un peu à l'origine de l'entente cordiale. Et aussi de l'abandon de la grande politique qui avait été celle de la restauration d'alliance avec la Russie. Et Talleyrand est nommé à Londres après 1830, après les journées de juillet, comme ambassadeur, donc un personnage considérable en Europe. Et il vient rendre visite au roi Louis-Philippe et lui dit « Sire, j'en suis à mon 13e serment ». Faites que ce soit le dernier. Et ce sera le dernier. Enfin, il aura encore joué un rôle important. Donc, la girouette, bien qu'on prend toutes les célébrités de la Révolution, de l'Empire.
Edgar Faure avait une très belle expression sur qui était une espèce de Talleyrand contemporain, en quelque sorte, parce que Dieu sait s'il a souvent changé d'opinion. Et quand on lui en faisait le reproche, il disait, mais enfin, et quand on le traitait de girouette, il disait, écoute, je ne me sens pas du tout insulté pour être une girouette, parce que la girouette, c'est pas elle qui tourne, c'est le vent. Alors effectivement, Talleyrand aurait pu dire la même chose.
Il le disait aussi lui-même. Enfin, il disait que seul il avait eu l'intérêt du pays en tête et que s'il avait varié, c'est parce que tout le monde avait varié avec le vent, justement. Donc voilà les deux ordres inventés et voilà l'éteignoir. Alors cet éteignoir a une forme très particulière qui ressemblera au futur bonnet de coton de la monarchie de Juillet. Si bien qu'on voit la création, dès cette époque-là, et c'est ça que c'est intéressant, de tout un répertoire de symboles, de formes, très bien forgées, très bien inventées, et qui resserviront constamment. Et le deuxième terme de la poire, c'est bien sûr Louis-Philippe, mais on s'aperçoit qu'avec le temps, la poire ressemble aussi un peu à un éteignoir. Et le parallélisme que j'ai voulu montrer dans cette exposition qui regroupe une centaine de gravures et de lithographies, c'est qu'au bout du compte, Charles X lui s'embarque à Cherbourg pour l'Angleterre, Louis-Philippe est à Trouville, démuni de tout, s'embarque et il y a une dernière petite lithographie qu'il représente. La poire est devenue une chandelle et dessus,
il y a un éteignoir
avec le mot liberté. Mmh. C'est la révolution de 1848. Donc il y a une sorte de parallélisme entre la branche aînée et la branche cadette, qui finissent toutes les deux dans la Révolution, l'une de 1830 et l'autre de 1848.
Alors, en quelque sorte, le grand témoin de cette exposition de caricature politique, c'est Chateaubriand, qui vient par ses citations ponctuer, commenter et même éclairer les différentes images que vous présentez.
Oui, parce que Chateaubriand a non seulement été un homme politique, rappelons qu'il a été ambassadeur, qu'il a été ministre des Affaires étrangères à l'époque de Villèle, et c'est surtout c'est aussi un polémiste. Et il est l'auteur de trois grands pamphlets de 31 et 32, donc après les fameuses glorieuses 1830, contre la monarchie de Juillet, où l'on retrouve curieusement des formules qui viennent vraiment s'adapter aux caricatures qui sont des caricatures principalement d'inspiration républicaine. En réalité, à cette époque-là, il y a même un complot qui est le complot de la rue des Prouvaires en 1833. Eh bien, on voit une sorte de coalition qui se forme entre les républicains qui sont très mécontents ou déçus ou désenchantés, en particulier Lafayette et d'autres, de la meilleure des républiques, un trône tout entouré d'institutions toutes républicaines, donc ils sont déçus parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une monarchie, et puis les légitimistes qui se rapprochent également des républicains, et nous retrouvons une espèce de convergence contre le juste milieu qui sera le régime Ventru, le régime Pansu de Juillet, etc. On a effectivement Louis-Philippe qui est cylindrique, une sorte de barrique énorme, et qu'on voit toujours de dos, et qu'on reconnaît, ou bien parce que c'est une poire, plus tout simplement assise sur un trône. Alors de temps en temps, on voit une jambe et un pied qui écartent les libéraux, Lafitte et d'autres. Ou alors, on l'aperçoit énorme, de dos. Or, pour la figure royale, c'est évidemment quelque chose de blasphématoire. De dos, avec une houppette démesurée et d'énormes favoris. Et le public sait qu'il s'agit de Louis-Philippe. Et à partir de là, pendant surtout les années 30-35, vous avez vraiment une propagande déchaînée contre la monarchie de Juillet. Et quand en 35 tout s'arrête, car c'est l'attentat Fieschi et les lois de septembre qui imposent silence à tout, eh bien on s'aperçoit que déjà est annoncée la fin du régime, même s'il va encore subsister près de 14 ans.
Alors cette exposition, donc je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie et que vous écoutez actuellement Jean-Paul Clément, directeur de la maison Chateaubriand, nous parler de l'exposition « L'été noir et la poire ». Cette exposition que vous pouvez aller voir, on va vous donner tous les détails tout à l'heure pour vous y rendre, c'est tout près de Paris, donc c'est très très facile pour tous nos auditeurs, en tout cas franciliens ou île-de-franciens, enfin qui habitent l'Île-de-France, je ne sais plus comment il faut dire maintenant, enfin, ça va, Île-de-France.
Francilien,
moi je vous ai
dit que j'aimais bien.
Francilien.
Oui, mais c'est pas la plus laide invention qu'on ait faite. Francilien, c'est.
Bah non, ça rappelle quand même.
C'est pas joli.
Oui,
c'est joli.
Les francs, enfin, c'est.
Francilien, oui, c'est bien. Alors donc, Francilien, cette exposition se double d'un très beau catalogue. Moi, j'ai une grande passion, tout le monde le sait ici, pour les catalogues, surtout. Pour les images à colorier, vous voulez dire?
Oui, tout à fait. Non, mais
j'ai une grande passion pour les catalogues, parce que je trouve que les catalogues, c'est absolument merveilleux. Ça permet de rêver. C'est très, très bien. Mais dans ce très beau catalogue dont je recommande à nos éditeurs de se procurer s'ils vont à l'exposition, ou peut-être le trouveront-ils en librairie, il y a une préface, une vôtre préface d'ailleurs, je dirais assez iconoclaste quand même, parce que vous posez quelques questions sur Chateaubriand, et on se gratte un peu la tête. Alors par exemple, vous dites, il y a un chapitre qui s'appelle Chateaubriand libéral, avec un point d'interrogation, bien sûr, et là c'est assez peu douteux, Chateaubriand réaliste, ça l'est quand même davantage, quand à Chateaubriand républicain, là je mettrais non pas un point d'interrogation, mais trois points d'interrogation. Pouvez-vous nous développer ces facéties que vous êtes permis?
C'est-à-dire que Chateaubriand s'est trouvé, du fait de ses combats politiques, en particulier après avoir été chassé du ministère, s'est retrouvé du côté des libéraux et des orléanistes. Et au moment de la révolution de 1830, il a été porté... Il en a gardé un souvenir toujours ému jusqu'à la fin de ses jours. Il a été porté en triomphe par la jeunesse des écoles jusqu'à la Chambre des Pairs, qui siégeait au palais du Luxembourg. Alors il criait « Vive le roi, vive la charte !» et on reprenait « Vive la charte !» en oubliant les prémices de son intervention. Donc, il se retrouve de ce côté-là, et Louis-Philippe fait des avances à Chateaubriand. C'est un grand écrivain, il a combattu Villèle et Polignac, et donc Louis-Philippe aimerait beaucoup l'avoir dans son gouvernement. Et Chateaubriand refuse. Donc il abandonne ceux qui avaient été ses alliés provisoires, c'est-à-dire Benjamin Constant, Guizot et quelques autres, et même Lafayette qui lui avait envoyé une feuille de laurier dans une enveloppe pour le féliciter d'un discours ou d'une intervention, je ne sais plus laquelle. Quant à Républicain, là c'est évidemment plus complexe. Il y a une formule de Chateaubriand dans un de ses pamphlets 1831. Il dit qu'il est monarchiste par raison, bourbonien par honneur et républicain par nature. Alors, ce qu'il faut entendre par républicain, c'est une très grande indépendance d'esprit. Mais ça ne renvoie pas particulièrement
un système politique.
Donc, il n'est pas plus républicain que... Il est resté monarchiste et il le montrera en se trouvant aux côtés de la duchesse de Berry, même s'il désapprouve son entreprise de soulèvement de la Vendée en 1832. Il écrit un très beau mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry qui lui vaut d'être emprisonné, d'être traduit devant les tribunaux, et en particulier procureur général de l'époque s'appelait un certain Percy, et alors tous les caricaturistes ont fait le jeu de mots sur Percy, S-C-I-E, et il y a une formule tout à fait étonnante, et des commentaires de Chateaubriand au vitriol, auxquels je renvoie, je ne vais pas les lire maintenant, mais qui sont à lire, car l'écriture de Chateaubriand est une écriture de caricaturiste. Donc il y a vraiment ce que j'ai appelé la satire du vivant, c'est-à-dire que tous ces personnages-là deviennent satiriques et grotesques sous la plume de Chateaubriand. Donc il rencontre l'esprit du temps, car l'un des plus grands caricaturistes de cette époque, c'est Daumier. Daumier fait ses débuts, ses armes véritablement, à cette époque-là, avec des gens comme Granville, Gavarni, enfin il y a vraiment tout un ensemble de dessinateurs remarquables.
Jean Grand Talent.
Et quand on voit effectivement ce qu'est devenu la caricature politique aujourd'hui, aussi simplifiée, aussi décevante, on voit vraiment que cette période a été un âge d'or. Très bref, une flambée, mais une flambée extraordinaire. Alors Chateaubriand, républicain, voilà, je crois y avoir répondu. Même si il n'aime guère la cour de Charles X en exil, même s'il aurait souhaité que le comte de Chambord soit éduqué d'une autre manière qu'il ne l'a été, pour le rendre, dit-il, le témoignage vivant des siècles, l'homme des siècles au sein du monde moderne. Et qu'il le comprenne peut-être mieux qu'il ne l'a compris, au milieu de cette cour d'exilés entre les Blacas, Damas et quelques autres.
Blacas, il n'aime pas beaucoup Blacas.
Il n'aime pas beaucoup Blacas.
Il l'appelle l'entrepreneur des pompes funèbres de la monarchie.
Là aussi, il y a un portrait dans les mémoires d'Outre-Tombe, au vitriol. Donc, il n'a pas été le précepteur comme il le souhaitait. Voilà, l'éducateur du duc de Bordeaux fut donc devenu comte de Chambord. Mais il continuera à servir la dynastie des Bourbons, et encore en 1843 à Londres, puis en 1846 à Venise, le comte de Chambord réunit ses fidèles, et parmi ses fidèles, surtout le vieux Chateaubriand, qui ne sait plus que pleurer. Il est saisi d'une émotion irrésistible, il est assis, le comte de Chambord ne lui demande même pas de se lever, il s'éponge les yeux, il peut balbutier quelques mots, et là vraiment, et le comte de Chambord portait une chevalière, où l'on trouvait inscrit « Ma patrie, mon pays sera ma patrie », c'est-à-dire une des formules d'une chanson de Chateaubriand. « Ça, mon amour, toujours ». Eh bien, donc là, il y a une sorte de fidélité, même si effectivement, il n'hésite pas à être très féroce, non seulement à l'égard de des orléanistes, mais aussi des légitimistes, enfin, qu'il...
Des ultras, aussi, notamment. Une exécration des ultras. Alors, je rappelle donc cette exposition dont vient de nous entretenir avec infiniment de talent Jean-Paul Clément de la Maison Chateaubriand s'appelle « De l'été noir à la poire ». C'est une exposition de caricature politique 1829-1848, donc les derniers mois, en quelque sorte, de la monarchie légitime et puis la monarchie de juillet. Vous pouvez la voir jusqu'à quelle date, d'ailleurs?
Le 23 décembre, donc l'exposition va jusqu'au 23 décembre, donc elle est visible tous les jours sauf le lundi, de 14h à, plutôt de 10h à 12h, puis de 14h à 18h, tous les jours.
Alors, pour se rendre à la maison Chateaubriand, que faut-il faire ?
Eh bien, soit que l'on prenne sa voiture, et alors on passe par la porte d'Orléans, et on se trouve là à trois quarts d'heure à peu près, tout dépend des embouteillages que l'on rencontre. Enfin, c'est tout à côté de Sceaux, ce n'est pas très loin. Soit on prend le RER ligne B, on descend à Sceaux, et ensuite, il y a quelques minutes de marche. Il faut marcher, je dis quelques minutes pour les bons marcheurs, peut-être un tout petit peu plus pour ceux qui seraient un peu plus lents. Mais
quand on aime, on compte pas.
Est à quelques pas de là, donc au 87 rue Chateaubriand, à Châtenay-Malabry.
C'est à Châtenay-Malabry, donc c'est dans les Hauts-de-Seine. Alors je donne quand même un téléphone si les personnes veulent se renseigner davantage, savoir si éventuellement il peut y avoir des visites de groupe, guidées, des choses de cette nature.
Les deux sont possibles.
Voilà, donc le téléphone en appelant bien sûr dans la circonscription de Paris, c'est le 47 02 58 61, c'est le numéro de téléphone de la maison de Chateaubriand, si nos auditeurs de province, bien sûr, doivent composer
le 16.
Moi, je sais jamais, il faut composer le 16. Mais tout ça va changer dans quelques années, on va avoir le numéro à 10 chiffres. Déjà, on avait du mal à se souvenir des 8, alors maintenant les 10, ça va être quelque chose de spécial, ça va être encore bien, ça. Hein. Ça
me dit genre, 96.
Ah oui, parce que nous sommes une des rares capitales au monde à avoir des numéros de téléphone à 8 chiffres. Parce que partout, je ne sais pas comment ils font, à New York par exemple, ils ont toujours à 7 chiffres, je ne sais pas, c'est très spécial. Merci Jean-Paul Clément, bravo pour cette très belle exposition. Et alors surtout, je dis aux visiteurs, s'ils s'y rendent, qu'ils ne mettent surtout pas de se procurer le catalogue, parce que c'est une magnifique collection de gravures, parfaitement commenté par tout un groupe de spécialistes. Alors je crois quand même qu'il faut dire un petit mot et rendre hommage à la personne qui vous a le plus aidé dans cette opération d'exposition, c'est Philippe Régnier, je crois, qui est directeur de l'unité de recherche littérature et idéologie au XIXe siècle et chargé de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Pour une fois, ça aboutit à quelque chose. Quand on dit toujours le CNRS, ils font rien. Ben là, quand même.
Eh bien, ils ont été très heureux justement que leur recherche, leurs travaux aboutissent à une chose concrète, à ce catalogue.
Voilà, le catalogue est vraiment magnifique.
Et tout ce qui est exposé se trouve reproduit dans le catalogue.
C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Je souhaite que nos auditeurs s'y rendent nombreux. Je rappelle le numéro de téléphone, le 47 02 58 61.
Et l'adresse ?
Et l'adresse, donc,
la maison de Chateaubriand.
La maison de Chateaubriand, c'est à la Vallée aux Loups. C'est 87 rue Chateaubriand, ce qui est quand même la moindre des choses. 87 rue Chateaubriand. Et c'est à Châtenay-Malabry, dans le 92, voilà, c'est-à-dire dans les Hauts-de-Seine. Merci Jean-Paul Clément, puis surtout j'espère à très bientôt pour d'autres manifestations que vous avez l'habitude d'organiser avec vous. T'as tellement de talent à la maison de Chateaubriand. Merci infiniment et on fait une petite respiration musicale.
Thank you.
Eh bien, nous revoilà pour cette deuxième partie des Fous du Roi. Alors, une petite précision, Anne-Laure.
Oui, oui, un auditeur nous précise que la station s'appelle Robinson-Sauvin. Donc, pour se rendre à la maison de la maison de Chateaubriand. Donc, Robinson ou Sceaux, c'est la même station. C'est le terminus, de toute façon, de la ligne RER B.
Donc, c'était autrefois Sceaux-Robinson. Maintenant, c'est Sceaux tout court, mais Robinson, ça marche.
C'est pareil, c'est à la limite des deux.
D'accord. Merci beaucoup de cette précision. Alors, nous allons passer à notre deuxième invité, François Lebrun, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Rennes 2, qui nous a régalé d'un magnifique livre qu'il a édité. Alors, je dis toujours, c'est au sens anglo-saxon, parce que M. Lebrun n'est pas éditeur, il faut toujours préciser. Voilà. C'est la personne qui a mis à jour, travaillé un texte, et qui le présente avec un appareil critique de notes. Voilà, ça s'appelle un éditeur chez les anglo-saxons. Voilà. Alors, parce que les gens ne comprennent pas toujours, il faut préciser. Alors, qui est alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas véritablement... Ce ne sont pas véritablement des mémoires, puisque le texte dont il est question n'a pas été rédigé à la fin de la vie de son protagoniste. Ce n'est pas non plus un journal, puisque cette brave personne ne tenait pas au jour le jour ses notes. C'est une espèce de chose entre le journal et le mémoire, mais c'est absolument passionnant. Ça s'appelle « Moi, Marie Dubois, gentilhomme vendômois, valet de chambre de Louis XIV ». Il le fut aussi, je crois, un peu de Louis XIII. Et alors, qui est ce personnage de Marie Dubois?
Oui, eh bien, ce personnage de Marie Dubois, d'abord, je précise que, en ce qui concerne le texte que j'ai donc édité, entre guillemets, ce texte avait déjà été l'objet, en 1936, d'une édition savante de la part de Monsieur de Grandmaison, qui était à l'époque archiviste du département d'Indre-et-Loire, et qui, ayant eu, pour des raisons familiales, la chance d'avoir en main le manuscrit de notre homme dont nous allons parler à l'instant, en a donné une édition tout à fait remarquable au point de vue scientifique. Louis de Grandmaison était évidemment chartiste, et c'est l'œuvre d'un chartiste qu'il a publié en 1936. J'allais dire, avec les avantages et les inconvénients de la chose, avantage, un texte admirablement fidèle au manuscrit, du moins tout permet de le penser, et inconvénient, en ce sens que Louis de Grandmaison a cru devoir respecter scrupuleusement l'orthographe. Or, c'est l'orthographe du français des années 1640. Et encore, sur cette orthographe qui nous pose aujourd'hui bien des problèmes de lecture, Marie Dubois a en rajouté encore, si j'ose dire. Hein, si bien que cette belle édition scientifique de 1936, je ne dirais pas est illisible, mais enfin est difficilement lisible pour un lecteur de notre fin de XXe siècle. J'ajoute que Louis de Grandmaison était également très scrupuleux en ce qui concerne le manuscrit qu'il avait en main, c'est-à-dire qu'il l'a édité intégralement. Ce qui aboutit à un gros livre de 500 pages. Il n'était pas question de rééditer cet ensemble. Je me suis donc permis de retoucher, si je puis dire, ce texte de Louis de Grandmaison sur deux points. J'ai modernisé l'orthographe, mais je précise tout de suite que je m'en suis tenu là. Je veux dire que j'ai totalement respecté le texte lui-même, hein, et que j'ai soit adjoint des mots entre parenthèses, mais toujours marqués par une parenthèse, soit expliqué en note telle phrase obscure, mais je ne me suis permis aucun remaniement du texte. Donc, modification de l'orthographe, et puis aussi extrait. Hein, ce que j'ai publié n'est pas l'intégralité de ce qui subsiste du manuscrit de Marie Dubois.
C'est-à-dire à peu près 200 pages.
Voilà. L'éditeur, alors au sens précis du terme, ne pouvait pas envisager une publication trop lourde. D'autre part, il faut bien le dire, il y a des longueurs. Hein. Il y a des longueurs dans le texte original. Et mon travail, si vous voulez, je ne dirais pas de censure, ce n'est pas ça du tout. Mais enfin, le fait de devoir faire tomber un certain nombre de pages n'a pas été trop difficile, en ce sens que bon nombre de pages étaient un peu lassantes. Hein. J'ai besoin de préciser que toutes ces coupures sont marquées dans le texte, là aussi, par des points de suspension entre parenthèses.
Alors, qui est donc ce Marie Dubois? Déjà, c'est curieux, voilà, Marie pour un homme, c'est...
Rien que son nom, son prénom et son nom posent déjà problème. Il s'explique d'ailleurs sur son prénom, et il le relate dans son texte, sur une question du jeune Louis XIV, s'étonnant lui-même de ce prénom, il explique que son père, ayant perdu plusieurs enfants en bas âge, avait fait vœu à la Vierge de baptiser le prochain enfant qu'il aurait, garçon-fille, Marie. Et ce fut notre homme qui naquit. Il a d'ailleurs gardé toute sa vie une profonde vénération pour sa patronne, pour la Vierge, et on peut noter d'ailleurs qu'il n'a même pas cherché, ce qu'il aurait pu faire après tout, à ajouter à ce prénom de Marie un prénom masculin qui lui aurait sans doute facilité les choses dans la vie courante. Non, il s'est obstiné à s'appeler Marie. Quant à ce nom de Dubois, qui fait un peu plat, reconnaissons-le, il n'en cache pas moins un authentique gentilhomme. Gentilhomme à titre personnel, une noblesse liée à sa charge de valet de chambre du roi. L'intérêt, si vous voulez, de ce qu'il faut tout de même appeler un journal, je pense. Louis de Grandmaison avait intitulé sa mémoire en 1936. Hein. Je pense que le terme... convient mal et que le terme de journal convient mieux, car visiblement, même s'il a écrit ses pages à son retour en province à intervalles réguliers, c'est d'après des notes prises sans doute au jour le jour, donc on est très près du genre journal. Et si vous voulez, je pense que l'intérêt aujourd'hui pour le lecteur de ce témoignage, c'est qu'il nous donne un témoignage sur la vie à la cour et sur la vie en province. Marie Dubois a passé en effet une partie de sa vie à la cour où l'appelait ses fonctions, mais dans des conditions d'ailleurs qui nous paraissent aujourd'hui un peu surprenantes. Il était valet de chambre par quartier, c'est-à-dire qu'il y avait attaché à la personne du roi 26 valets de chambre, mais rassurons tout de suite nos auditeurs, ces 26 valets de chambre n'étaient pas tous les 26 en même temps au lever et au déshabiller du roi, ils étaient 4, en ce sens que sur les 26, je suis lancé dans une précision jusqu'au bout, il y en avait 4 qui étaient premiers valets de chambre, qui servaient eux-mêmes par quartier, donc il n'y en avait qu'un en fonction, et sur les 24 restants, il y en avait donc 6, 6 fois 4, 24, 6 qui étaient, c'était déjà beaucoup, dites-moi, il y en avait 6 qui étaient en fonction en même temps. Ce quartier aboutissait donc à servir en principe un trimestre sur 4, en fait il y avait des arrangements entre valets de chambre, mais en tout cas, ça laissait au titulaire de la charge beaucoup de temps libre, reconnaissons-le, et Marie Dubois va passer ses temps libres dans sa propriété de couture en Vendômois, à peu de distance de Vendôme et de Montoire. Si bien qu'on a un double éclairage sur la société du milieu du XVIIe siècle, puisque je précise que le journal porte sur la période 1647-1671, Marie Dubois meurt quelques années plus tard en 1679, et essentiellement d'ailleurs sur 1647-1662. Hein, c'est donc, je dirais, le premier XVIIe siècle. Nous sommes avant la prise du pouvoir personnel par Louis XIV en 1661, au lendemain de la mort de Mazarin. C'est vraiment ce premier XVIIe siècle, et surtout la période de la Fronde.
Voilà, c'est ça qui est très important, voilà. Parce que le président, c'est ce regard qu'il a à la fois comme provincial et comme parisien, quand il vient pour faire ses quartiers à Paris, ou quand il repart dans sa province, en fin de compte, on voit que la France entière, parce qu'on n'imagine pas ça, c'est une guerre civile, la France. C'est quelque chose d'absolument dramatique.
Oui, et une guerre civile qui, comme vous le dites vous-même, oui, effectivement, il en est le témoin. Je dirais le témoin, pas du tout l'acteur.
Il ne prend pas position.
Non, aucun titre. Il dit lui-même à un moment, c'était pas sa formule, mais enfin, en substance, je n'y comprends pas grand-chose. Effectivement, ce n'est pas une tête pensante, notre Marie Dubois.
Mais c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre, la France. Oui, je crois que c'est un des éléments de l'histoire de France les plus compliqués à comprendre.
Absolument, absolument. Et on sent vraiment que le pauvre Marie Dubois est complètement dépassé. Alors, il a quelque chose qui le conduit à travers ces mois tragiques, si je puis dire, c'est son attachement à la personne du roi. Il se pose pas de questions. Hein. Alors, le roi, ça a d'abord été Louis XIII, qui l'a servi, et puis ensuite le jeune Louis XIV. Alors, le jeune Louis XIV, c'est le roi, il ne se pose pas de questions, il suit le roi aveuglément, et même en province... Il est entouré d'une petite noblesse dont les membres sont soit pour les frondeurs, soit pour le roi. Lui, il était évidemment pour le roi. Mais il se trouve donc mêlé. Et il est à ce titre un observateur tout à fait intéressant parce que il dit tout uniment ce qu'il voit. Hein, il ne prend pas parti. Il ne cherche pas à comprendre, mais il dit en particulier les journées des barricades d'août 1648 à Paris, il les décrit. Il est décrit, d'ailleurs c'est passionnant, à la fois parce que, en ce sens qu'il confirme d'autres récits, ne serait-ce que les pages que le cardinal Doré consacre à ces mêmes journées. On a là une confirmation directe, si je puis dire, d'un mémorialiste comme Ré, ou d'autres mémorialistes d'ailleurs de l'époque, et cela nous prouve à quel point Marie Dubois est un modeste observateur, mais un observateur fiable, tout à fait fiable.
Mais alors tenace aussi dans sa revendication d'obtenir pour sa descendance, soit ses demi, ses beaux-fils, si je puis dire, soit ses propres enfants, des charges ou la succession à sa propre charge. Là, là il est beaucoup, il y a beaucoup d'entre gens.
Oui, oui, ça, il est très certain que le témoignage qu'il nous donne de la vie de cour et de la de tout ce qui entourait la personne du roi, c'est assez étonnant. On se rend compte que, d'ailleurs il le dit lui-même, il emploie la formule « dans ces lieux-là », il veut dire la cour, même si on est petit, il était modeste, il voulait dire « même lorsqu'on n'est que valet de chambre, on peut rendre de grands services ». Et effectivement, l'intérêt d'une charge comme celle de valet de chambre du roi, c'était pas les émoluments qui étaient faibles, mais c'était le fait de pouvoir approcher le roi, matin et soir, et par conséquent de
solliciter, demander, suggérer,
soit pour lui, soit pour sa famille, pour des amis, et des amis dont il attend bien que l'ascenseur lui soit renvoyé, si je vous employe cette expression vulgaire, hein, il fort peu d'époque. Et d'ailleurs, il nous montre bien comment tout ça marche, dans les deux sens, hein, et il le fait sans vergogne. On est frappé par l'insistance avec laquelle il demande au roi...
Il insiste. Quand le roi lui fait... Le roi doit avoir 16 ou 17 ans à l'époque et il demande de report de charge sur un enfant à lui qui a 4 ans. Et le roi lui dit, écoutez, oui, c'est très bien, je vous connais, vous êtes un brave homme. Enfin, bon, 4 ans, moi, j'attends que les gens soient un peu plus âgés pour voir. Et alors, lui, répond tout de suite. Il s'incline pas, il tombe pas en pommoison. Il répond, mais sire, tous ceux qui sont ici ont eu 4 ans, etc.
Absolument, une insistance extraordinaire. De même, il s'est mis en tête de construire dans sa paroisse de Couture une chapelle pour la confrérie du rosaire qu'il a créée. Et il va tanner, si j'ose dire, Louis XIV, Anne d'Autriche, Marie-Thérèse un peu plus tard, pour avoir de l'argent pour mener à bien la construction de cette chapelle. C'est pour le bon motif, donc
il fonce. Alors, ce qu'on lit dans ce journal de ce Marie Dubois, semblerait prouver, et là je vous sollicite bien sûr votre opinion éclairée, quand même une relative proximité de l'entourage au sens large de la cour avec les monarques. Il n'y a pas les distances qu'on peut aujourd'hui ressentir vis-à-vis de l'autorité constituée. Il semble que, tout le monde est dans la chambre, peut-être à des heures qu'il faut, etc. Mais qu'on parle, qu'on interrompt, qu'on sollicite.
Je vous répondrai de façon nuancée et à plusieurs registres, si je veux dire. D'abord, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, au milieu du XVIIe siècle, au début du règne de Louis XIV, encore mineur, puis majeur, et même après 1661. C'est le début du règne de Louis XIV. Nous ne sommes pas encore à Versailles. Nous ne sommes pas encore après 1682, où la cour va se figer. Avec toutes des règles de plus en plus rigoureuses et strictes. N'ose pas dire familiarité, mais un certain va-et-vient dans cette cour et dans cet entourage du roi. C'est incontestable. On a effectivement cette impression que vous dites. Et puis, j'ajoute que s'il y a des gens qui, par leur fonction, approchaient bien le roi, c'était tout de même
les valets de chambre, bien sûr.
Puisque leur fonction consistait à tenir sa robe de chambre le matin, donc ils étaient là, et même le soir, ils étaient là au bon moment. On a d'ailleurs à ce sujet-là, je ne crois pas l'avoir cité dans ma introduction, je crois l'avoir retrouvé depuis, un témoignage intéressant de Saint-Simon, qui au moment de la mort de Louis XIV, dans les très longues pages qu'il consacre au roi, rétrospectivement, si je puis dire, en 1715, il a quelques lignes qu'il consacre au valet de chambre, en disant que Louis XIV, d'ailleurs, et du sol, de toute façon, c'est pas flatteur à ses yeux pour Louis XIV. Louis XIV avait la plus grande confiance avec ses valets de chambre, il s'entendait très bien avec eux, d'où, dit Saint-Simon, une puissance de ces gens de peu, parce que Ne s'y trompons pas, les Alexandres sont de tout petits gentilshommes. Ne confondons pas avec les grandes charges de premier gentilhomme de la chambre, de bon qui eux étaient entre les mains de grands seigneurs. Ces Alexandres étaient de tout petits gentilshommes. Mais Saint-Simon a très bien compris, a très bien vu que, si petit qu'il soit, il joue un rôle fort important de par cette familiarité entre guillemets tout de même.
Cette proximité répétée avec le monarque.
Qu'ils ont avec le monarque.
Ça, tout Saint-Simon est dans cette remarque. Il n'aimait pas tellement ce genre de choses. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup ému dans ce récit, cette espèce de journal de Marie Dubois, c'est la piété.
Oui.
Elle transparaît quasiment à chaque page de son journal, à toutes occasions, décès, baptême, on lui donne quelque chose, on lui accorde, une sollicitation qu'il a faite, et bien il y voit encore une fois la bénédiction du ciel, il va tout de suite faire dire 8 messes pour remercier le ciel de la bonté qu'il a eue pour lui. On le voit au chevet de sa mère mourante, c'est un passage de magnifique littérature chrétienne, c'est admirable.
C'est l'autre clé.
La piété est toujours très forte.
C'est l'autre clé du personnage. Hein. C'est même, je crois, il y a cet attachement à la personne du roi, cette espèce d'attachement qui ne se discute pas, viscéral. Et puis il y a sa foi, incontestablement, qui passe même avant, si j'ose dire, non moins incontestablement. À cet égard, d'ailleurs, bien sûr, en dehors de la personne même de Marie Dubois, dans le secret de laquelle nous ne pouvons pas entrer. On peut considérer qu'il est tout de même bien représentant, un bon représentant de cette renaissance catholique du 1er 17e siècle. N'oublions pas que non seulement c'est le demi-siècle, pour ne pas dire le siècle, c'est le demi-siècle de Saint-François de Sales et de Saint-Vincent de Paul, mais c'est surtout, au-delà de ces grands noms, c'est l'époque où la réforme catholique mise en place dans les textes, si j'ose dire, par le Concile de Trente, un siècle plus tôt, commence à entrer effectivement dans les faits. Et à cet égard, effectivement, vous avez raison de le souligner, Marie Dubois me paraît tout à fait représentative de cette religion post-tridentine qui se met en place à cette époque, et qui va durer, si j'ose dire, dans des formes telles que les évoque Marie Dubois, jusqu'à les années 60 de ce siècle,
le 20e. Une piété, j'insiste, c'est une piété très, très, très forte, mais aussi très sincère. Elle n'est pas du tout affectée. On sent vraiment que cet homme vit cette foi, et dans tous les détails de sa vie au jour le jour. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez actuellement François Lebrun, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Rennes 2, qui vient nous parler de l'édition du journal, en quelque sorte, de Marie Dubois, gentilhomme vendômois, qui fut valet de chambre de Louis XIV, et qui a été publié dans une maison d'édition, je trouve très courageux de faire ça, une maison d'édition de Rennes.
Oui, c'est un
éditeur rennais. Il faut rendre hommage à ces très nombreuses maisons d'édition provinciales qui font un très très beau travail.
Et les éditions Apogée de Rennes sont diffusées par les presses universitaires de France. Et si je peux me permettre cette parenthèse, je crois que c'est l'explication du succès de ces petites maisons, c'est quand elles peuvent se faire diffuser.
Sans quoi c'est très très difficile. C'est très difficile. Mais il y a en France des centaines de petites maisons d'édition, petites ou moyennes d'ailleurs, parce que tout n'est point, s'il n'est bon bec que de Paris, de bonnes éditions à Paris, n'est-ce pas? Il y a de très bonnes éditions partout, à Toulouse, à Rennes et dans d'autres
endroits. D'ailleurs, c'est inscrit dans une collection dont le titre est Moi, justement, une collection de mémoires, de journaux, d'époques différentes d'ailleurs, mais dont le titre commence toujours par ce mois.
Alors, autre intérêt de ce journal, c'est des notations très pratiques. Par exemple, Marie Dubois nous fait la recension d'une journée du roi. Qu'est-ce qui se passe exactement la journée du lever jusqu'au coucher? Mais c'est une journée qui est quand même très, très, qui n'est pas oisive du tout. Elle est très, très remplie. Bon. Alors, on apprend des tas de petits détails. On apprend combien de temps il faut pour aller en carrosse du Louvre jusqu'au château de Rueil. Il faut 2 heures. Ce sont des petits détails comme ça qui sont tout à fait intéressants. Il en faut davantage maintenant, je veux dire, le soir, si on rentre à 6 heures des guichets du Louvre à Rueil, il faut au moins 2 heures. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, si je puis dire.
D'autant plus que ce témoignage de Marie Dubois porte, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur une époque où la cour était encore très itinérante, hein, et tantôt à Paris, tantôt à Saint-Germain, tantôt à Fontainebleau.
Plus parfois par nécessité que par goût, parce qu'effectivement, il fallait...
Oui, par nécessité du fait de la fronde, mais tout de même, il n'y avait pas Compiègne. Bon, il ne faut pas oublier que... Alors, Versailles, déjà, car... vous savez que Versailles a été occupé par la cour à des périodes plus ou moins longues, mais enfin souvent quelques semaines, voire quelques mois, alors que c'était un immense chantier. Hein. Dès 1661, Louis XIV prendra l'habitude d'aller de temps en temps à Versailles. Bon, mais il faut attendre
1662
pour que la cour soit véritablement stabilisée.
Mais ça voulait dire qu'à chaque lieu, c'était l'évêque de chambre qui était chargé de ranger les nécessaires
absolument,
du roi,
donc
sortir les carrosses.
Voilà, on a du mal d'ailleurs à imaginer cette espèce de cohue que devait constituer le déplacement de la bien cour sûr. D'un lieu à un autre, parce qu'il fallait bien que tout le monde suive, hein, et tout le monde suivait. Alors là, évidemment, pour Marie Dubois, ça allait tellement de soi qu'il ne nous donne pas beaucoup de détails. On aimerait qu'il nous en donne davantage. Mais enfin, il faut bien évidemment le supposer. Et oui.
Très beau, vraiment très 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 beau livre, plein de notations intéressantes, de détails, qui ressuscite une époque, bon, sans doute oubliée, mais que ce type d'ouvrage nous permet de ressusciter en quelque sorte, et puis de nous remémorer. Alors c'est très intéressant, c'est toute la jeunesse de Louis XIV, depuis tout petit jusqu'à 17 ans et demi, plus que 17 ans d'ailleurs.
Je précise un mot, vous disiez tout à l'heure à fort juste titre que Marie Dubois était d'abord au valet de chambre de Louis XIII, et il avait écrit des notes comparables à celles que nous avons encore, pour la période antérieure. Malheureusement, c'est un manuscrit qui a...
Non, il a été perdu,
On en conserve un seul morceau, une dizaine de pages qu'il avait consacrées à la mort de Louis XIII, et dont il avait fait lui-même des copies d'ailleurs, et qu'il avait distribué à certains grands seigneurs de la cour, si bien qu'on en a encore quelques copies, mais sinon l'ensemble du manuscrit a disparu. Non plus donc que cette seconde partie.
Où l'on apprend d'ailleurs que Louis XIII avait composé un bréviaire.
Oui.
C'est dit, il le dit, n'est-ce pas? C'est quand même des choses absolument extraordinaires. Donc,
Oui, Daniel, parce qu'il y a un auditeur qui nous dit que lorsqu'on possède un texte entier sur un auteur, il est dommage d'y opérer des coupes, surtout quand celles-ci ont déjà été faites. Il faut dire à l'auditeur, l'essentiel,
Quand celles-ci ont déjà été faites, je précise, non.
Elles
je précise que l'édition de Louis de Grandmaison est absolument... il a publié intégralement le manuscrit qu'il avait en main, hein, qui portait sur les années 1647 et 1671. Cet auditeur n'a pas tort, en soi.
Mais cet auditeur peut très bien, à ce moment-là, lire la grande édition.
Oui, exactement, c'est ce que vous voulez dire.
Il la trouve, d'abord, il la trouve, et à quel prix?
Si, non, l'édition est toujours... Ça va me donner l'occasion de faire de la publicité à la Société archéologique du Vendômois, société savante qui joue son rôle fort bien, d'ailleurs, qui m'a aidé, d'ailleurs, dans cette publication, et qui possède toujours des exemplaires de l'édition de 1936. Par contre, d'accord, les lecteurs, je le précise, d'ailleurs, dans mon livre, les lecteurs qui, mis en appétit, si je puis dire, par l'édition actuelle, peuvent toujours se reporter et même se procurer l'édition de 1936, qui est une édition intégrale.
Non, mais là, vous avez voulu vraiment vous mettre à la portée d'un large public.
J'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins lourd, à tous égards. Et bon, bien sûr, il a donc fallu sacrifier des pages, je ne le conteste pas.
C'est évident, et je n'y vois personnellement pas d'objection. Je crois que cette émission n'est pas faite pour les cuistres. Je crois qu'il faut que apporter ses connaissances au plus grand nombre de gens. Je vous assure que se lancer dans une édition avec des mots qu'on ne comprend pas, qu'on arrive à peine à lire, qui ont changé de sens, si on n'est pas aidé. Alors après, une fois qu'on a lu ce livre, qui est un livre très très aisé d'accès et très vivant,
Justement, vous le dites vous-même très bien, c'est complémentaire de l'édition scientifique.
Après, on va voir l'édition scientifique pour ceux qui en ont vraiment le goût.
Elle existe toujours, on peut se la procurer, donc...
Alors donc, je rappelle ce très beau livre, vraiment un livre plaisant à lire, plein de choses très vivantes.
Vous permettez avant de lire juste le tout petit passage où il explique pourquoi il s'appelle Marie.
Ah bah c'est une bonne idée.
C'est vrai que vous gardez en effet le langage quand même de l'époque qui est extraordinaire. C'est je vais vous sauter quand même là-bas. Pour quelle raison j'avais nom Marie? Je leur dis que défunt mon père, ne pouvant en nourrir ses enfants, avait fait vœu à la Vierge que le premier enfant, fils ou fille, aurait nom Marie et que ma mère vint grosse de moi. Par ce même moyen, mon père m'avait dédié à la Vierge dès le ventre de ma mère. Monsieur de Maupéou prit la parole et dit « Il faut que vous soyez saint, et puis l'on nommera les garçons Marie ». Monsieur de Beaumont, évêque de Rodez, trouva ce discours agréable et me dit « Vous devez aimer votre nom ». Donc c'est vrai que c'est fabuleux.
Oui, une petite précision justement, votre lecture me donne l'occasion de le faire. L'un des mérites, si je puis dire, de Marie Dubois, c'est son style direct. À chaque fois qu'il est amené à rappeler un dialogue, il ne dit pas « un tel a dit que », un tel deux points
ou voilà, c'est dialogué. Voilà. C'est un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue, ce qui rend d'ailleurs le livre très vivant, parce qu'il y a de très nombreux dialogues avec différentes personnes, et même de trop de personnes, etc. Et tout est rendu vivant, et on sent quand même une certaine proximité des rapports humains, même si c'est une société d'ordre, alors que nous ne sommes plus dans une société d'ordre aujourd'hui, mais je trouve que les rapports se sont distendus à un point absolument extraordinaire. Bon. Alors que là, il y a une certaine... une certaine humanité entre les gens, même s'ils sont grands seigneurs ou petits valets de chambre. C'est ce qui m'a plu beaucoup dans la découverte de ce journal de Marie Dubois, gentilhomme vendômois, valet de chambre de Louis XIV, présenté et édité admirablement par François Lebrun aux éditions Apogée de Rennes, mais que vous pouvez trouver grâce aux efforts de diffuseurs des presses universitaires de France. Par exemple, à Paris, vous avez la librairie des Puffs, et donc vous trouverez très certainement ce volume. Très beau livre. Il faut dire le prix aussi, les gens aiment bien, ça vaut 125 francs, qui est quand même très peu cher pour un livre, et il y a presque 200 pages, et vous ne perdrez pas votre temps, ça se lit vraiment presque comme un roman, mais c'est plus intéressant qu'un roman. Merci beaucoup François Lebrun, j'espère que si d'autres vous éditez d'autres livres, vous aurez la gentillesse de venir nous voir, en tout cas, sachez que vous serez toujours le bienvenu dans cette émission.
Merci.
Voilà, vous êtes donc toujours sur Radio Courtoisie, ne raccrochez pas, vous avez encore un bon quart d'heure à passer avec nous, mais avant, on va encore faire une petite respiration musicale. Voilà, alors
je viens de me faire taper sur les doigts, mais une auditrice me dit qu'on ne dit pas Mopéou, mais Mopou, bien évidemment.
L'auditrice a raison.
Alors, en plus, alors, elle me fait une petite pique à un de vos confrères, enfin des concurrents, on se croirait sur Radio France, pof, pour Radio France. Donc
gentil,
voilà,
hein.
Donc je suis extrêmement désolée.
Ça ne doit pas être un compliment pour notre auditrice.
Non. Pourtant, il y a quand même...
On n'est pas sur Radio France, on est toujours sur Radio Courtoisie. Nous sommes des bénévoles dans cette station. On essaye de faire du mieux possible et nos invités ne sont pas payés quand ils viennent parler dans le micro. Donc, vous voyez, pas tout à fait Radio France. Bon. Mais par contre, j'espère qu'un jour, on aura la diffusion de Radio France. Et peut-être aussi les revenus un jour de Radio France, qui sait. Tout peut arriver. Vous savez, l'histoire est faite de revirements extraordinaires. Alors maintenant, nous allons passer au dernier thème de cette soirée, grâce à notre ami Jacques-Charles Gaffiot, qui nous fait encore l'amitié de venir nous voir. Bon, Jacques-Charles Gaffiot, on l'a entendu de nombreuses reprises, président de l'association Louis XVI, mais ce n'est pas là son seul titre de gloire, encore que c'est un titre qui n'est pas à négliger, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
Et alors, il vient d'organiser à la mairie du 5e arrondissement, qui est, je crois, la mairie de... Une des mairies de Paris, on organise le plus grand nombre d'expositions.
C'est une prestation qui est annuelle et qui se situe dans le cadre donc des fêtes d'automne organisées par Jean Tiberi depuis 14 ans. Cette exposition est couplée du reste avec un ensemble de concerts, un ensemble de manifestations diverses
ainsi un spectacle pyrotechnique le samedi soir.
Ah, c'est pas, oui, alors il faut, on va parler de ça dans le détail.
Il y a toute une série de manifestations dont je n'ai pas tout en mémoire, bien sûr, mais toute une série donc de concerts, de manifestations. Aux arènes de Lutèce, samedi après-midi, il y a une démonstration qui est faite par la garde républicaine et d'autres concerts pour lesquels vos auditeurs peuvent tout à fait être renseignés en appelant la mairie du 5e arrondissement, qui se fera plaisir de répondre et de donner tous les détails.
Alors là, l'exposition dont il est question, qui a débuté hier, c'est-à-dire...
Elle est ouverte hier, c'est ça.
Où sommes-nous, combien aujourd'hui d'ailleurs, le 20, le 20, donc elle est ouverte le 20 septembre. Je dis ça parce que comme l'émission va être diffusée, donc demain matin, les gens qui vont nous réécouter demain matin, il faut bien leur préciser que nous sommes sur Radio Courtoisie le 21 septembre, parce que tout ça est fait en direct, mais pourront nous réécouter demain. Donc, exposition inaugurée hier et qui s'appelle « Beauté et pauvreté, l'art chez les Clarisses de France ».
Voilà, c'est un paradoxe, effectivement, qui a été lancé. L'exposition, tout d'abord, je crois, s'inscrit dans un anniversaire. Il s'agit du 8e centenaire de la naissance de Claire d'Assise en 194. Et à la demande donc des monastères de Clarisse de France, qui se sont constitués en un comité du 8e centenaire, et puis également avec l'aide d'un autre chercheur du CNRS, Madame Dominique Rigaud, nous avons eu l'idée de présenter, de rappeler en quelque sorte l'importance de Claire d'Assise à travers des objets d'art qui sont aujourd'hui conservés dans les 54 monastères français qui subsistent de nos jours. Outre, je vais dire, les visiteurs qui se rendront à la mairie du 5e arrondissement verront, je crois, des objets qui sont uniques, qui sont présentés pour la première fois et qui, heureusement, vont rentrer dans les monastères, ce qui donne du reste une atmosphère complètement différente. Ce ne sont pas des objets morts, entre guillemets, qui proviennent de musées, des tableaux d'église qui sont dans des musées de beaux-arts, des pièces d'orfèvrerie religieuse qui sont dans des musées différents. Ce sont des objets de piété qui sont vénérés aujourd'hui encore, ou peut-être pas aujourd'hui puisque dans la mairie du 5e arrondissement, mais dès le 11 décembre prochain, elles rentreront en quelque sorte dans ces couvents et seront les supports de la vie intérieure, de la vie spirituelle de ces religieuses. Donc ce sont véritablement, cette exposition est assez chargée, mais outre précisément cet aspect esthétique, je crois, de présentation de ces œuvres, l'exposition a eu un grand mérite, me semble-t-il, c'est d'avoir permis un premier inventaire de l'ensemble de ces monastères français. Une expérience similaire, du reste, avait été conduite par la mairie de Paris il y a quelques années avec le Petit Palais son conservateur, M. Gilles Chazal, sur une très belle exposition qui présentait en quelque sorte l'art dans les Carmels de France. Eh bien, c'est une opération, je veux presque dire, similaire qui a été tentée. Non seulement l'inventaire, la restauration de certaines de ses œuvres, et cet inventaire était véritablement indispensable. Il n'est malheureusement pas exhaustif, et en ce sens, il faut espérer que les religieuses poursuivront, avec le soutien des conservateurs des antiquités objets d'art des églises de chaque département, le travail qui a débuté. Mais cette exposition aura permis la redécouverte, par exemple, de pièces tout à fait extraordinaires, notamment un calice en or du XVe siècle, offert par la famille d'Urfé à Sainte Colette lorsque cette dernière fonde un monastère. Cette pièce était égarée en quelque sorte, avait été oubliée depuis près d'une trentaine d'années, ou encore dans un autre monastère, la découverte dans le grenier d'une croix reliquaire en cristal de roche d'époque Renaissance, réalisée en France, un objet rarissime, puisque l'orfèvrerie française, vous le savez, a disparu avec notamment les fonds exigés par Louis XIV, la Révolution française, etc. Donc autant d'objets qui risquaient de disparaître et qui aujourd'hui, si vous voulez, sont ressuscités et trouve en quelque sorte une place de choix dans ce que nous avons présenté.
Alors, est-ce qu'on peut préciser, même si ça fait un peu épicier, mais combien de pièces avez-vous en tout réunies dans cette exposition et le magnifique catalogue qui va avec ?
Il y a environ 170 numéros dans ce catalogue, avec des pièces qui sont quelquefois très importantes, notamment, vous verrez, un grand meuble d'archives du XVIIe siècle. Vos auditeurs comprendront, et s'ils viennent jusqu'à la mairie du 5e arrondissement, ils liront peut-être les cartels explicatifs, et je ne cite jamais le nom de ces monastères dans lesquels, nous ne les citons jamais, dans lesquels ces pièces sont tirées pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Mais ce grand meuble d'archives est quelque chose de tout à fait étonnant. Donc il y a des pièces monumentales, il y en a d'autres qui sont plus modestes, par exemple une croix reliquaire offerte par le souverain pontife à Sainte-Colette, vraiment minuscule. Donc 170 objets de tailles différentes, mais qui se trouvent véritablement réunis par le fil conducteur, la vie des religieuses pendant 7 siècles sur notre territoire.
Il y a des objets contemporains aussi, où vous avez arrêté nous sommes
limités dans le choix. Nous allons jusqu'à 1930. Et nous terminons précisément l'exposition par, une notice tout à fait relative à une série d'objets complètement extraordinaires. Il s'agit d'un pontifical offert par les religieuses de Mazamet au pape Pie XI en 1927. Ce pontifical est donc constitué d'une aube, d'une chasuble, manipule, étole, pâle et voile de calice, qui est donc brodée à la soie. C'est une peinture à l'aiguille sur lequel il y a plus de 2000 personnages entièrement différents. C'est un objet absolument somptueux que la sacristie pontificale a accepté de sortir une nouvelle fois de ses réserves pour être présenté donc à Paris. C'est tout à fait extraordinaire.
Eh bien, écoutez, voilà, félicitations d'une auditrice. On apprend plein de choses. Ben, c'est fait pour ça, la radio, c'est fait pour ça. Et c'est dommage que nous n'ayons pas l'image, qu'en plus on pourrait montrer des tableaux, des objets extraordinaires. Mais bon, nous n'avons pas...
Mais il faut se rendre à la mairie du 5e.
Voilà, alors d'où il faut se rendre à la mairie. Alors, on va bien préciser les choses. Donc, l'exposition est ouverte jusqu'à quelle date? Vous l'avez dit.
Jusqu'au 11 décembre.
Jusqu'au 11 décembre. C'est le jour de la Saint-Daniel, je le dis tout de suite pour ceux... Ben, voilà, c'est le... Oui, alors...
Le 11 décembre, donc elle est ouverte tous les jours de 10h45. À 5h30.
Alors l'entrée vaut...
Il y a une entrée payante qui est de 20 francs à plein tarif, et puis il y a toutes les réductions, j'allais dire, pour les personnes âgées, les étudiants, etc., à 10 francs. Je crois que cette politique d'entrée payante est tout à fait indispensable. Oui. Je crois qu'il faut contribuer à cet effort.
C'est un prix dérisoire. C'est symbolique et en même temps pour vous important.
Et c'est un prix important qui permet précisément d'acheminer telle ou telle œuvre et surtout quelquefois de les restaurer, parce que en ce qui concerne certains tableaux, les visiteurs le verront, il était impensable de les présenter dans un état particulièrement...
Mais quand on voit que maintenant une place de cinéma est à 50 francs, il vaut mieux 50, aller...
Ça vaut 50 francs?
Oui, c'est 45 francs, 45, 50 francs.
Je sais pas, moi j'y vais plus.
Quatre fois aller voir votre exposition pour vraiment connaître bien toutes les pièces des Clarisses.
C'est une très bonne idée. Et alors surtout d'acheter le très beau catalogue. Alors le prix n'est pas marqué dessus.
Le prix est de 230 francs.
230 francs, bon, c'est
catalogue, oui.
C'est un
il y a une cinquantaine de reproductions couleurs, effectivement.
C'est absolument superbe. Très, très, très beau catalogue.
Et avec des textes, je crois, vraiment intéressants, parce que, encore une fois, ces objets sont inconnus, sont présentés pour la première fois au public. Ils ne retracent pas simplement la vie de Sainte-Claire. Il y a énormément de choses, effectivement, qui rappellent son œuvre.
Des Clarisses françaises.
Et bien sûr, de la grande réforme du XVe siècle de Sainte-Colette de Corbie. Et cette exposition met en lumière, finalement, également un autre aspect historique. C'est l'importance des fondations princières, justement, au XVe siècle. Phénomène qui, jusqu'à présent, était resté un petit peu, était passé sous silence et qui est, je crois, véritablement montré dans toute sa splendeur par l'évocation, par exemple, de l'épouse du roi René II, Philippe de Gueltre, qui va entrer chez les Clarisses de Pont-à-Mousson, monastère qu'elle fonde, ou encore la duchesse d'Alençon, qui, après son veuvage et après avoir maintenu le duché d'Alençon, il s'agit du reste de la belle-sœur de Philippe de Gueltre, qui, après avoir maintenu le duché en attendant que son fils puisse être en âge de régner, entre cette fois chez les Clarisses du monastère qu'elle fonde à Alençon, et autant de souvenirs donc de ces princesses qui furent de très hauts personnages.
Magnifique exposition, magnifique commentaire, mais enfin avec Jacques-Charles Gaffiot, c'était une surprise de ne pas avoir des commentaires aussi éclairants et éclairés. Donc j'invite bien sûr tous les auditeurs de Paris, d'Île-de-France et même d'au-delà, s'ils passent à Paris avant le 11 décembre, à se rendre donc à la mairie du 5e arrondissement, qui se trouve
place
21 place du Panthéon, donc c'est pas très difficile.
Quand on est face au Panthéon, c'est juste sur votre droite.
On peut pas louper.
Non.
On peut pas louper.
Non, le Panthéon, non, mais la mairie, c'est sur la droite.
Allez-y, c'est magnifique et vous ne serez pas déçus de tous ces objets que vous allez voir. Merci infiniment, Jacques-Charles Gaffiot. À très très bientôt.
À très bientôt.
Alors, pas de musique maintenant, mais quelques brèves de notre ami Pierre-Emmanuel qui piaf depuis 15 jours déjà, puisqu'il n'en avait même pas dit, je crois, la semaine dernière.
Exact.
Vous avez des petites brèves à nous donner, alors?
D'abord, à propos de Sainte-Claire, est-ce que je peux rappeler que le prince, le duc d'Anjou,
oui,
s'est rendu il y a quelques semaines à une cérémonie
en
Espagne
c'est
célébrer le 8e centenaire avec le cardinal prélat de Madrid.
Cardinal archevêque de Madrid, oui, parce que son père est enseveli dans un monastère des Casafrelles, qui est en fait des Clarisses déchaussées, donc ce sont des Clarisses qui ont fêté, célébré aussi le cardinal archevêque de Madrid du 8e centenaire.
Et que vous trouverez la relation de cette cérémonie dans le dernier fil.
Ah, c'est gentil de me faire un peu
de musique.
Mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis très touché de votre sollicitude.
Puis encore un petit cadeau pour vous. Vous aimez Jean-Philippe Rameau, n'est-ce pas?
Ah, voilà, c'est
un concert Jean-Philippe Rameau, il faut se dépêcher, c'est demain soir, le 22 septembre, à 20h30. L'église Saint-Jean du Mont, c'est place du Panthéon, donc on revient dans le même endroit, dans le 5e arrondissement de Paris.
Saint-Étienne-du-Mont.
Et voilà,
Saint-Étienne-du-Mont.
Qui est organisé, effectivement, merci, c'est organisé par la mairie du 5e arrondissement.
Alors donc, vous pouvez aller
à place du Panthéon.
Place du Panthéon, mais il s'agit bien de Saint-Étienne.
À quelle heure est le concert?
Concert à 20h30, ça sont les grands motets par le concert spirituel.
Magnifique. Alors, allez à l'exposition d'abord, et puis ensuite, filez au concert. Tâchez de manger un petit quelque chose entre temps.
Mais nous ne garantissons pas les dîners. Nous n'avons pas encore pensé au dîner.
Alors moi, j'ai une auditrice qui me demande de rappeler les coordonnées de Monsieur Lebrun. Donc le nom de l'auteur, le livre s'appelle « Moi, Marie Dubois, gentilhomme, Vendômois, valet de chambre de Louis XIV », donc par François Lebrun, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Rennes 2, aux éditions Apogée de Rennes.
Diffusion PUF.
Voilà, diffusion PUF. Alors moi, je voulais rappeler deux petites expositions. Toujours autour de la petite table vénitienne de la Duchesse d'Angoulême,
oui,
organisée sous le patronage de l'association France Bourbon, oui, au Château des Aigues à Étretat, jusqu'au 1er octobre.
Oui.
Donc renseignement au 35 28 92 77.
C'est un numéro en province.
C'est un numéro en province. Et toujours, alors jusqu'au 25 septembre, donc c'est également dans ces 3 jours, et Plan de Paris, à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, renseignement au 44 59 29 40.
À propos des Fous du Roi, je voulais signaler à toutes les personnes qui veulent suivre un peu l'actualité des Fous du Roi et des adeptes du Roi qu'ils ont maintenant une petite publication qui s'appelle Royal Hebdo.
Ah oui, ah bah encore décidément. Alors écoute, ça va me coûter très cher cette soirée.
Royal Hebdo, est-ce que vous pourriez rappeler les...
Ah bah
les
oui, c'est un hebdomadaire. Si des gens veulent en avoir, ils ont qu'à m'écrire. Donc ils connaissent mon adresse. S'ils la connaissent pas, je leur donne.
Un square racan,
RACN, grand poète de la Pléiade, RACN, 75-06 Paris. Ils envoient 2-3 timbres et puis on leur enverra un spécimen de la publication.
Afin de ne rien rater de toute l'actualité...
Voilà. Là, je crois qu'il faut que nous nous quittions maintenant, puisque nous arrivons à la fin de la cassette. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Pierre-Emmanuel. Merci, Anne-Laure. Merci, Thérèse Adelfin. Et donc, si vous le voulez bien, dans 15 jours, pour un autre programme encore, peut-être pas plus intéressant qu'aujourd'hui, mais aussi varié en tous les cas. Et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté d'Anne-Laure, de Pierre-Emmanuel et de Xavier Saint-Delphin. Document d'archives du 21 septembre 1994, rediffusé dimanche 1er décembre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.